I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je sais, Marie, elle est mal à l'aise par rapport à un truc.
Ah ouais, putain, ah oui, non, s'il vous plaît, on parlait pas.
Oh, le Marie, elle déteste quand on parle du caca et des proutes.
Oh, je suis pas bien du tout.
Ah, voilà. Son visage est caché par sa main.
Oh putain. Bref, ouais.
Alors qu'en fait, c'est pas grave, les caca et les proutes.
Non, mais
ça
c'est
fait
bon, stop. Non, on est déjà en début d'épisode, j'ai chaud.
Ah bah bravo.
Ah bah voilà, maintenant, elle pourra plus nous regarder
bon, bah,
de travers.
Bon, vous l'avez. Ok. Okay.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
Ah,
bonsoir, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Il commence à faire un peu jour maintenant.
Oui, c'est ça, maintenant il fait un petit peu jour le soir.
Donc, vous savez, on gagne 4 minutes là de jour.
Par jour.
Ouais.
Ah, mais moi je les compte ces minutes, tu vois, parce que moi je suis ravie. Dès qu'il fait le plus jour possible, ça n'a aucun sens cette phrase. Il faut savoir que je suis très fatiguée parce que je fais beaucoup de cauchemars en ce moment.
Oh, mais oui.
Et du coup.
C'est ton gros kiff ou pas?
Pas du tout.
Ok.
Non, ce n'est pas du tout un kiff puisque je sors, j'ai peur et je suis fatiguée. Donc voilà, c'est juste pour ça. Pas parce que j'ai une double vie d'espionne.
Pas du tout. Parce
que t'as une double vie d'espionne et que, tu sais, comme Jason Bourne. Qui s'en souvient plus, tu vois.
Qui s'en souvient plus.
Et, bah, que ton subconscient, il est en train de refaire.
Vous savez ce que c'était mon cauchemar de cette nuit?
Vas-y,
un bon mood feel good là, vas-y.
C'était Charlie, on était dans un super grand amphithéâtre.
C'était Charlie. Donc, il y a
Charlie qui était dedans et Charlie me regardait et elle me dit: Alix, est-ce que tu veux bien que je t'embauche? Je dis: bah oui, bien sûr. Et elle me fait: bah en fait, on a un one-man show là et il faudrait que t'écrives un sketch. Et j'étais là, d'accord, mais c'est pour quand? Du coup, il fait: bah, c'est pour dans 30 minutes, là, parce que Camille a démissionné. Et j'étais là, quoi? Et du coup, je devais écrire un sketch de 5 minutes en 30 minutes. Et vraiment, je n'arrivais rien à pondre sur ma feuille, tu sais. Et tout le monde était là, mais dépêche-toi et tout. C'était horrible, je me suis réveillée en sueur et tout.
C'est très réaliste, en plus.
Ça va avec le travail, sinon?
Putain, mais c'est marrant parce que moi, j'ai rêvé cette nuit que je démissionnais.
Ok.
Non, mais c'est vraiment un cauchemar, ça peut pas arriver parce que en fait je démissionnais sans avoir de plan derrière. Donc ça peut pas arriver.
Ça
n'existe
pas.
Ouais, voilà, dans le monde de Marie. C'est vraiment un fake. C'est pas possible. Voilà. Mais putain, je me suis dit, ouais, c'est fou. Bah, c'est marrant.
Toi, Doro, tu te barres quand? Est-ce que t'as un mal-être à exprimer d'une manière générale?
Moi,
une pression qu'on te mettrait?
Aujourd'hui, j'ai tourné un street tattoo et c'était bizarre parce que j'ai parlé de genoux. Mais c'est tout. Oui. C'est mon seul problème actuellement.
Tout va bien.
Ok, très bien.
Après, je fais des rêves pas reliés au travail aussi. Une fois, à un moment, j'ai rêvé que j'étais dans la grande maison de mes arrière-grands-parents et que du coup, j'avais joué à un jeu avec des gens, je sais plus, mais plein de gens étaient morts pendant le jeu. Et du coup, j'avais caché tous les corps dans une pièce. Et les âmes essayaient d'en sortir. Sauf que là, il y avait une pote de Nantes qui arrive et qui me dit: Alix, on voudrait faire l'anniversaire de Machine dans cette maison et tout. Et donc, moi, je faisais le tampon entre les esprits qui essayaient de sortir de la pièce et mes potes qui voulaient absolument faire leur anniversaire là. Et à la fin, j'étais là: vous voulez pas faire votre anniversaire ailleurs? Voilà. Venez, on loue Airbnb. Voilà.
Mais tu regardes des trucs chelous avant d'aller te coucher ou pas?
Non, mais après, je sais à peu près à quoi c'est lié, mais voilà.
Okay. Oh, c'est un mec que j'ai tué, la vidéo.
Bah, c'est que, en fait, c'était un mélange où j'ai regardé Lock and Key.
Ah oui.
De manière ultra concentrée pour sortir le popcorn, voilà. Et en même temps, mes potes organisaient leur anniversaire à Bergerac, ce qui est ultra compliqué pour moi. Parce que du coup ça coûte cher et donc du coup je savais pas comment leur dire que ça me coûtait trop cher. Donc voilà, je pense que c'est un mélange des deux, tu vois.
Et pour le travail, sinon, pour cette pression qu'on te met comme ça, il faut que t'écrives un sketch.
C'est fou, hein. Mais non, mais parce que
t'allais voir Camille sur scène.
Ouais, je suis allée voir Camille et Charlie sur scène au One Mad.
Ok.
Et ouais, non, mais je sais pas. Parce qu'en ce moment, je me dis que j'aimerais bien reprendre le théâtre. Et genre, je sais pas, ça me.
Peut-être que c'est. Ouais, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que t'as pas trop de travail. Peut-être que tu veux plus de travail. Et que c'est pour ça que tu rêves de travailler pendant plus d'heure.
Ouais. Déjà, les journées sont quand même bien chargées, je crois.
Ouais, je crois que ça va, moi, pour moi. Charge de travail, c'est bon.
Je passe mon tour.
Tu sais que si un jour tu veux monter sur scène, t'écris 5 minutes, tu vas au One Mad. Hein. Pouf.
Allez, ça y est. Allez, ça y est.
Comment tu crois que Camille, elle a commencé?
Dépêche-toi!
Dans les meilleures conditions.
Tu n'es pas obligé, tu peux prendre 3 mois si tu veux.
Ah ouais.
Pour écrire 5 minutes.
J'adore quand tu fais. Ah ouais.
Bon, mais en tout cas, j'ai toujours pas annoncé que ce soir c'était la team sucré-salé qui
était
là.
Oui.
C'est la première fois que la nouvelle team sucré-salé est au complet.
C'est vrai, disons. Ah bah, trop bien.
On célèbre ça avec des bruits chips.
Et voilà, exactement. C'est j'espère cool, que vous
n'entendez pas.
On a des trucs salés, mais on n'a pas de trucs sucrés. Il aurait fallu avoir des bonbons sucrés.
On n'aime pas.
Si, on aime.
Maintenant, on n'aime que le sel.
D'accord.
On sera la team salée.
Juste sale. Ultra salée.
Just salé, salt.
Salé.
Plus ça va, moins il y a de sucré.
C'est faux.
C'est faux. Et du coup, ce soir, il y a Marie Vrigno.
Oui. Ouais. Ouais.
Bonjour.
Fabrice Florent.
Ouais.
Dorothée Bichy.
Ah, j'ai un nom de famille. Ouais. Incroyable.
Mais oui, mais parce que j'ai dit le nom de tout le monde et du coup je me suis. Mais en même temps, au c'est début, drôle. Genre j'ai hésité, tu sais, je t'appelle jamais par ton nom de famille.
Déjà, personne m'appelle Dorothée en entier.
Ouais, c'est vrai.
Donc Dorothée Bichy en plus, ça fait. Bah, c'est sérieux,
c'est très officiel.
C'est très formel.
Dorodoro.
Moi j'aime bien quand t'es à la fin, tu viens toujours à la fin. Et alors moi, je suis.
Et moi, je suis Alix Martineau.
Alix,
applaudissez-moi.
Qui êtes-vous ?
Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez des commentaires par rapport au dernier LMK?
Oui, moi j'ai reçu plein de commentaires suite à mon mini kiff sur les dessins animés de mon enfance.
Ah oui.
Donc je vais pas tous vous les citer parce que vraiment c'était un peu un condensé de merci beaucoup pour avoir parlé de tes dessins animés de quand tu étais petite, ça m'a beaucoup plongée en enfance. Il y avait plein de gens qui connaissaient mes références, hein, donc j'étais pas la seule sur Terre à avoir regardé Charlie, les 4 dinosaures, etc.
Mais t'étais la seule du LMK, mais pas la seule sur Terre.
Je suis étonnée parce que j'ai demandé du coup à d'autres personnes de l'équipe Mademoiselle si elle connaissait ces dessins animés. Eh bien non, donc je suis la seule personne de Mademoiselle qui a ce référentiel là mais du coup ça a fait écho dans plein de foyers chez les M Crado. Et sinon du coup j'ai un autre commentaire qui n'a un peu rien à voir mais que je trouve très pertinent, très approfondi, et je pense qu'il est important de le relever. C'est Monia.Benz qui m'a envoyé un commentaire pour me dire que j'étais la meilleure de LMK. Voilà. Je sais pas, je me suis dit c'était le bon commentaire à citer, voilà. En toute modestie, évidemment.
Non, voilà. Quand on dit que t'es la meilleure, de toute façon, Marie, t'es là.
Écoute, non, voilà. En tout cas,
meilleure.
C'était trop mignon. Et c'était trop mignon que tout le monde me dise ah, trop cool d'avoir parlé des dessins animés, c'était trop chouette. Voilà.
C'est trop cool. Yes. Bravo, merci Marie.
Merci.
Moi, j'ai un commentaire.
Pardon, j'ai pris ri.
Alors, pardon, mais.
Est-ce que tu nous l'as déjà envoyé celui-là?
Oui, exactement. Donc, il faut savoir que j'ai interviewé dans Histoire de succès mon autre podcast, ma psy qui s'appelle Jeanne Sauvachin, et qui est également très connue pour avoir notamment travaillé sur ce qu'on appelle les hauts potentiels, n'est-ce pas, les HP, les zèbres, etc., etc. Et donc, en fait, il y a cette personne dont le pseudo est Wildflus. Mais merci beaucoup parce que vraiment, je ne sais pas comment le prendre ton truc. Est-ce que tu me dis? Bonjour Fabrice, j'ai écouté avec un grand plaisir l'épisode de Histoire de succès avec Jeanne Sauvachin, hyper en majuscule intéressant. J'écoute aussi LMK et je trouvais déjà de base que tu faisais des bides où tu étais un peu à côté des autres parfois. Et en fait, elle me demande, es-tu au potentiel? Et après, passe une bonne journée. Alors je sais pas si c'est un
tu
garçon.
Tu n'es pas très drôle, es-tu donc très intelligent?
Donc, merci,
c'est la meilleure excuse. Oui.
Donc j'ai beaucoup ri et en même temps je sais pas, j'ai pas répondu. Donc désolé si t'écoutes, mais vraiment je sais pas comment te dire ça de vive voix. Mais
peut-être qu'elle aussi elle est au potentiel, parce que venir comme ça, parler aux gens frontal comme ça.
Bim. Là, on se connaît, tu me dis ça comme ça. On s'est jamais envoyé de message. J'ai trouvé que c'était tellement marrant.
C'est très drôle.
Voilà, j'ai ri, je l'ai envoyé sur la conve. On a une petite conve LMK dans notre outil et ça a fait rire tout le monde.
C'est
quoi.
Drôle,
voilà,
c'est
forcément.
Vrai.
Très marrant.
Débat.
Mimi qui a répondu d'ailleurs, entre guillemets, tu n'es pas drôle et es-tu très intelligent ou juste bête.
Un peu des deux peut-être.
Voilà, merci.
On dirait un peu le nagging.
Oui, oui. Ouais.
Alors, il faut que tu expliques ce que c'est que le negging.
Ah, est-ce que j'ai une bonne définition de ça?
C'est Mimi qui définit bien le negging. Elle dit que c'est une technique de pick-up artiste.
Oui, ça c'est.
Qui consiste à te rabaisser un tout petit peu pour que tu te sentes.
Un peu nul
et que mais, derrière.
Et que derrière. Mais enfin, tu le rabaisses tout en le flattant. Enfin, en fait, c'est exactement ça, en fait. Ouf. C'est genre.
C'est un petit pic.
T'es jolie. Ça te va bien pour. Ouais. Pour ta taille.
Ouais.
Ah ouais.
Ah ouais. D'accord.
Ouais.
C'est pas cool.
Je pense pas que cette personne ait voulu faire ça, très sincèrement. Juste pour dire, hein, parce que vraiment.
Non,
merci.
Non.
C'est juste que je ne t'ai pas répondu parce que je sais pas quoi répondre à ce message. Je sais pas si c'est sympa ou pas. Je pense que c'est sympa.
Merci, probablement. En tout cas, c'était drôle.
Tu veux répondre.
Très bonne réponse. Ouais.
Merci, probablement.
Probablement.
Voilà, je voulais aussi dire merci à tous les gens qui me mentionnent dès qu'ils regardent une série que j'ai pu, auquel j'ai pu. Non mais c'est vrai.
Non mais oui.
Pourquoi tu fais
toutes
ça?
Toutes les séries Netflix.
Non mais dès que j'ai proposé un truc et tout, il y a des gens qui regardaient Cheer, plein de gens qui regardaient Cheer et qui m'ont envoyé des messages en me disant ah merci beaucoup pour la reco, c'est trop trop bien quoi. Donc voilà.
Trop
ça
bien.
Me fait toujours plaisir.
Moi j'ai l'impression que mon Netflix il sait que t'en parles parce que à chaque fois que tu parles d'un truc, après c'est en home.
Non mais tu sais
que ça n'a rien à voir avec ce que je regarde, qu'est-ce que tu racontes, et genre à chaque fois c'est genre Fab il en a parlé du coup.
Mais bien sûr, mais parce que en fait ton téléphone
t'espionne. Ça y est.
Non mais bien sûr.
Non mais bien sûr. Mais bien sûr c'est sûr. C'est...
Non mais dis pas non, tu peux pas dire ça.
Si
comme
je
ça.
Te jure, un jour je parlais
moi, je
avec Philippine, un jour je parlais avec Philippine et on me disait ouais, ce serait ouf de trouver une belle robe pour ce mariage et tout. Après j'ai eu des pubs pour des robes de mariée sur Insta. C'est quand même fou.
Moi, j'y crois un petit peu aussi à ça.
Mais il y a
attention à ça. Et on va pas commencer à partir. Sinon, ça, on commence comme ça
ouais.
Et ça finit en la terre est plate.
La mais terre non, est plate, Fabrice.
Non, virez-la moi. On la change tout de suite. C'est pas possible.
Je reparlerai de ça après dans mon croquis.
Oh là là.
Oh carrément.
Oh ouais.
Ok.
D'accord. C'est politique ce soir.
Oh merde.
Eh bien, écoutez,
et
moi
t'as
j'ai
reçu,
un.
T'as reçu ouais,
pardon.
T'as reçu
moi, j'ai reçu d'autres dessins de crevettes.
Oh
voilà, continuez, je vous aime.
Les commentaires bisous. Crevettes pour Doro jusqu'à la fin des temps.
Oui, des dessins de crevettes pour toujours. Alors, sachez que maintenant, j'aime bien aussi tous les autres crustacés.
Ah, d'accord. Ah,
vous pouvez faire des décos poulpes.
Bah, je me suis perdue un peu trop sur Insta. Et puis maintenant, j'aime bien les petits. Tous les autres.
Bernard l'Ermite.
Ouais, mais tous en fait.
C'est chou les Bernard l'Ermite.
Ils ont tous l'air un peu cons, mais méchants.
Méchants.
Oui, méchants.
Des fois, ouais. Y a plein, là, ils sont pleins comme ça, avec leur grosse pince. Hein. Et après, ils vont se cacher.
Ouais, ils se cachent, c'est la grosse.
C'est j'imagine tellement le crabe qui fait.
Mais dans ma tête, ils font des bruits de cartoon, clairement. C'est des formations c'est professionnelles, non. Tu vois. C'est, c'est, moi, je monte des vidéos en me disant quel bruitage serait drôle sur cette situation. Du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je regarde des vidéos d'animaux et je suis là. C'est comme s'il avait fait. J'adore.
Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur Big Up sur à quel point t'aimes les crustacés?
Ça pourrait être trop drôle.
Voilà. C'est niche.
Si
c'est
vous niche. Envoyez un message, envoyez des messages à Doro
peut-être
pour lui dire que vous aimez.
Peut-être on peut faire une vidéo sur nos passions bizarres, étranges,
ah ouais.
Inhabituelles.
Ça pas oui, faux.
Ça peut être plus trop général cool. Que moi et les crevettes.
On fera un brainstorm demain.
Voilà,
c'est marqué
c'est
dans
dit,
nos agendas,
hein, n'est-ce pas?
Puisque notre téléphone nous écoute, il aura noté que demain.
Ça s'appelle okay, Google. Okay.
C'est ça. Siri.
Dis Siri. Voilà.
Eh bien, moi, je voulais vous parler de mon petit commentaire aussi. Vous souvenez-vous, la dernière fois, pas toi, Fabrice, tu n'étais pas là, mais peut-être que tu auras écouté cet épisode. J'ai parlé de ce mec qui essayait de voler dans mon sac de manière totalement zinzin et que je ne savais pas quoi répondre. Alors, on m'a conseillé sur Apple Podcast de répondre « Oust !» Et alors, la personne a testé et apparemment, le mec était complètement désemparé. Et c'est cassé. Donc la prochaine fois, je crierai allez oust, comme une vieille mamie.
Mais oui, mais peut-être que tu peux le faire médiéval aussi et faire hey toi là-bas, tu...
truand.
Manon.
Manon, oust là. C'est vrai trop.
Alors, mais vas-y.
Sacre bleu.
Sacre bleu.
Ah. Ouais, peut-être que plus tu dis un truc chelou, plus facilement plus,
Alors,
tu désarmes le gars.
Je connais cette. J'ai une anecdote à raconter. J'ai un pote qui m'a raconté qu'il était sur le point de se faire agresser et que les mecs ont commencé à vouloir le braquer et tout, et qu'il a fait le mec complètement taré, et à vouloir parler comme un demeuré, etc. Et il a commencé à baisser son pantalon et à dire je vais vous faire pipi dessus.
Oh,
et les mecs se sont barrés en
courant. Bah oui, tu m'étonnes.
C'est super.
Je pense que ça marche aussi dans le cas du harcèlement de rue. C'est-à-dire que si vraiment tu fais... t'es en train de te faire embrouiller, je sais pas. Je pense que peut-être ça marche. J'ai jamais testé. Hein,
c'est mais... vrai qu'une astuce à Margot Palace, c'était de faire des proutes avec sa bouche en faisant des fucks avec ses doigts. Et elle disait, et là, tu me trouves sexy. Et apparemment,
ah ouais, trop drôle.
Je l'adore. Oui.
Bah, tu niques le sex appeal d'un coup bah d'un ouais, seul. Quoi, ouais. Tu vois. Et là, la personne qui clairement baisse son froc et se met à sortir sa bite, si tu veux. En tant qu'agresseur, tu te dis, je sais pas jusqu'où il peut aller. Si ça tombe, il va me bouffer. Tout bah cru, quoi, tu vois.
Et là, la police passe et tu te fais arrêter pour.
Exhibition.
Ah, c'est con, cool, hein.
Pas de chance.
Dommage.
Pas de bol.
Ça partait des mauvaises choses. Voilà.
Bon, en tout cas, si vous n'avez pas envie de baisser votre pantalon, peut-être crier juste oust. Voilà.
Oust. Oust. Oust.
Et j'ai aussi une vie de bolos.
Ah, ça vous intéresse? Bah oui.
Carrément.
Je l'ai abrégée en deux lignes.
Mais il va falloir coup,
que
s'il vous plaît, hein.
Il va falloir que je mais non c'était hyper précis mais du coup un peu trop long et du coup j'avais la flemme de... parce que vous savez je prends des photos avec mon téléphone du coup après c'est illisible enfin voilà. Du coup je me suis dit je vais faire marcher ma mémoire je vais faire marcher ma mémoire et je vais essayer de reconstituer l'histoire. Donc c'était une meuf qui était en vacances à Londres avec sa meuf et sa meuf à elle ça va être super compliqué. A décidé de revoir son ex à Londres, tu vois, pendant qu'elle était à Londres et tout machin. Donc au début, la LM Crado, elle était là, bon, bah, je sais pas si j'ai très envie de revoir l'ex de ma pote, enfin de ma meuf, tu vois. Finalement, elle passe au-dessus, elle se dit, bon, bah, je vais la rencontrer. La meuf est super cool, elle ressemble à Maeve dans Sex Education, enfin okay. Voilà, super sympa et tout. Elle leur montre Londres de nuit, super sympa, et elle les invite chez elle, et là... Attention, ça va pas faire plaisir à Marie.
Attention. Ah non, c'est bon. Vous connaissez
et
ma
là,
faille.
Et du coup, la LM Crado décide ou pas, hein, parce que c'est la nature, veut aller faire caca. Et elle fait caca chez l'ex de sa meuf. Et là, le caca ne part pas avec la chasse d'eau.
Putain.
Du coup, horrible, parce que tu sais, quand t'es dans cette situation-là, tu fais qu'est-ce que je peux faire. Du coup, elle a appelé sa meuf à elle. Sauf que bah, sa meuf elle pouvait rien faire.
Qu'est-ce que tu fais frérot?
Qu'est-ce que tu fais quand t'as un gros caca qui flotte, tu vois? Et en fait, elle a dû aller chercher la meuf en question, enfin Maeve de Sex Education. Pour... Et en fait, elle avait juste mal appuyé sur
la chaise. Oh non, pire! Non, ah, c'est pire! Oh non!
Y'a rien qui marche dans cette. Mais la tristesse de cette
histoire. Ah, la vie de bolosse de malade!
Ouais. C'est pas mal, hein?
Ah ouais?
C'est pas mal. Merci beaucoup très bon à cette LM Crado.
Merci d'avoir partagé.
J'espère avoir bien retracé toute l'histoire.
Oui, tu l'as bien fait, en tout cas.
Merci, c'est gentil.
C'était sympa.
Et puis pour vous, j'ai deux dédicaces audio.
Oh. Allez.
Allez, c'est parti, on écoute. Merci.
J'aimerais faire une grosse dédicace à ma chérie Inès, qui fait dans quelques mois son premier Ironman. Je suis sûr que tu vas tout déchirer. Gros bisous et bon courage.
Bonsoir LM Kairok, dédicace à ma gâteau, membre officiel du club, à tous nos débats sur LMK. Merci à vous, bisous. Est-ce que vous avez vu que ça rime?
Waouh,
wow. Yes, trop mignon.
C'était trop bien, Valentin.
Bravo.
Trop chou. Non, bravo, Valentin, bravo. C'est les jingles.
Ah, oui, c'est vrai,
oh, tu suis pas.
Et moi, j'avais une petite dédicace à faire aussi.
Oh, bah dis donc.
Parce que en fait, mon papa, dont j'ai parlé plusieurs fois dans les épisodes, un jour est venu me voir et il m'a dit, Alix, il y a une fan de toi au bureau.
Oh yes, j'adore. Oh, c'est trop stylé.
Trop bien. Enfin, fan de toi. Je sais pas s'il a employé ces mots. C'est moi qui, dans ma tête, elle est fan de moi, mais...
Mais c'est pareil. Hein, elle t'adore. Elle a des photos de toi dans sa chambre.
Ouais, c'est ça.
Je cite, hein.
Mais donc, du coup, j'embrasse Blandine de chez Vendée Logement.
Mais c'est trop stylé.
Et on t'embrasse.
On t'embrasse tous très fort, Blandine.
Ouais, salut, Blandine.
Et mon père l'adore. Il me dit, ouais, elle fait du surf et tout, est trop cool comme meuf. Et je suis là, ouais, ok, bon, bah, super, bisous, Blandine, quoi.
Bisous,
et
Blandine.
En fait, elle est allée voir mon père, elle fait, ça fait plusieurs semaines que, bah, je le sais, mais je savais pas comment vous le dire, en fait. Vous êtes le père d'Alix Martineau. Trop mimes quoi.
C'est ouais. Trop chou.
Voilà.
Ok.
Voilà, bisous Blandine. Blandine.
Tu rends fier ton père, c'est beau.
Bah ouais. Il était ravi. Et maintenant il me dit.
C'est quoi LMK?
Il me dit à chaque fois, parce que moi de l'autre côté en fait, quand j'ai parlé de mon père, il y a une auditrice de LMK qui m'a envoyé un message en me disant ouais j'ai déjà fait un audit pour l'entreprise de ton père okay. Et ton père c'était le plus sympa et tout machin.
Mais non.
Donc les gens ont fait les liens hyper rapidement.
C'est une personnalité c'est pas... publique.
J'ai parlé de mon père une fois.
Tu t'appelles que Martino en plus. Enfin c'est pas comme si t'avais.
Ouais mais mon père il est assez connu en Vendée.
C'est genre, vrai. C'est un on peu... en a déjà parlé, oui. Il est famous.
Oui, il est famous. Et du coup, elle m'avait dit ça. Du coup, je lui avais dit ça.
C'est le Lady Gaga de la Vendée, comme d'hab.
Et moi, je...
Ton petit papa.
Bonjour le papa d'Alice.
Bonjour Damien. Voilà, voilà. Et eh bien, sinon, je vous propose de passer au mini-kiff.
Bah oui, c'est pas un... très bien.
Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Je crois que c'est l'heure des mini-kiffs. Mel, je le sais, je le sens, c'est l'heure des mini-kiffs.
Alors, eh bien, commençons par...
Boule.
Marie.
Je le sentais. Je sais pas, je le savais. moi, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé avant-hier et que j'avais, en fait, je crois, déjà vu il y a quelques années, qui s'appelle Contagion.
Oh. C'est bien d'actualité.
C'est très d'actualité. En fait, en cette période pré-épidémie de coronavirus,
ah ouais, toi t'es pré-épidémie, t'es persuadée que ça va devenir.
En fait, moi, je suis pas inquiète. Enfin, je suis pas en train de flipper, mais j'ai l'impression que tous les médias et puis même mes mes proches qui vivent hors Paris, ils sont là. Attention à toi quand même et tout ça. Ma grand-mère, elle me dit vraiment, sors pas trop de chez toi si tu peux.
C'est trop drôle.
Cette période pré-apocalypse.
Ouais, c'est ça. Non mais c'est ça. Et moi, j'adore. J'adore tous les films. D'apocalypse, j'adore 28 jours, j'adore Resident Evil, j'adore World War Z, etc. Mais en fait, j'avais envie de regarder un film un peu d'épidémie, mais réaliste. Et du coup, m'a conseillé Contagion.
Oh là là,
et en fait, je l'avais déjà regardé au cinéma, mais vraiment il y a longtemps, et donc j'avais oublié, parce qu'il date de 2011-2012. Donc en fait, Contagion, c'est l'histoire d'une épidémie qui se propage. Et c'est vraiment... balayé du début, c'est-à-dire le premier...
Du patient zéro, ouais.
Exactement, en fait, la patiente zéro qui est incarnée par... Je ne sais plus, c'est super.
Je sais qu'il y a Marion Cotillard très connue,
ouais,
dans,
y a un
dans le
casting,
film, mais je sais
des gens très connus.
Si c'est elle, le patient zéro.
Bon, ah si, Gwyneth Paltrow.
Ah oui.
Exactement,
ah.
C'est elle. Et en fait, elle revient de voyage d'affaires et subitement, elle tombe malade et elle meurt. Son fils dans la foulée aussi. Et en fait, c'est la patiente zéro, en fait. C'est de elle d'où part toute cette maladie.
Putain, moi, je croyais que c'était dans le bus que ça commençait.
Non, en fait, c'est... C'est elle et après, en fait, en parallèle, il y a des cas qui arrivent, mais c'est elle, la patiente zéro. Et en fait, on voit donc du moment où en fait elle meurt à 2 cas, 6 cas, 8 cas, 12 cas, 20 cas et en fait des millions de cas. Et en fait, je trouve ça cool parce que ça met dans un mood de en fait si ça arrive, ça pourrait très bien se dérouler comme le film l'illustre. Parce qu'en fait, c'est très réaliste. En fait, on voit donc l'épidémie arriver, les scientifiques se poser des questions, essayer de trouver d'où ça vient, quel test ils pourraient mettre en place pour y pallier. Quand ça commence à devenir vraiment national, international, en fait, là, tu vois que c'est la panique et que les gens commencent à péter des câbles, dévaliser les supermarchés, etc. Et en fait, j'ai kiffé ce film, je l'ai re-kiffé, parce que j'adore déjà les films apocalyptiques, qu'il est vraiment bien fait dans la manière dont tu constates en fait tout ce qui se passe, mais à travers plein de regards, donc le regard des gens qui, en fait, comprennent pas trop ce qui se passe, ils sont là, bon bah est-ce que j'ai besoin de sortir pour aller chercher à manger ou alors est-ce que je dois rester chez moi, le regard des scientifiques qui se disent ok on est dans la merde, qu'est-ce qu'on communique, et les politiciens aussi qui se disent oh putain de merde, catastrophe.
Et du coup est-ce que ça t'a rendu genre parano par rapport
pas tant que ça, en fait Mimi elle m'a dit quand tu vas le voir tu vas prendre conscience de tous les gens qui sont proches de ton visage.
Ouais, quand tu te touches le visage.
Voilà. Ouais, la maladie, elle se transmet par rapport à la bouche, quoi. Donc, en fait, dès que tu parles, dès que tu embrasses quelqu'un, etc. Mais non, ça m'a pas rendu parano plus que ça. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que, en fait, le film se concentre pas forcément sur juste les effets et, en fait, le après, mais plutôt, en fait, quand tout ça se propage, en fait. C'est pas juste... en fait, il s'est passé un truc il y a des années et maintenant, c'est la guerre, c'est la merde. C'est plutôt du point zéro... jusqu'à la potentielle solution. Et voilà quoi. C'est cool. Et j'adore les films apocalyptiques. C'est super.
T'adores quoi déjà?
Je trouve ça fascinant quoi.
Et pourquoi tu trouves ça fascinant? Genre c'est marrant.
Mais en fait c'est horrible et franchement ne me jugez pas.
Si on va te juger.
Mais en fait je me
dis. Judgment team.
En fait je me dis. Ça, c'est vraiment fou, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais en fait j'aimerais bien que ça arrive juste pour voir comment les gens réagissent en fait.
Mais je joue plus aux Sims, c'est juste.
Et du coup, je suis contente de voir des films qui le racontent, parce que du coup, je me dis, ah bah c'est cool, il n'y a pas besoin que ça arrive.
T'as vu La Route?
Non.
Ah bah, regarde La Route alors.
Ah, mais si, je l'ai vu. Mm-hmm. Bah oui, c'est un mec sur la route.
C'est avec son fils.
Ah oui, ou... oh il est fou. Ah oui, il est fou.
Voilà.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais oui.
Bah là, tu regardes et tu fais OK. Bon, est-ce que ça arriverait ou
pas? Mais non, mais bien sûr, j'ai pas envie que ça arrive. Mais en fait, je suis tellement curieuse de savoir comment les gens réagiraient.
Tu te souviens pas dans la
route. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Bah là, on n'est pas à ce stade dans.
Ça m'étonnerait pas.
Dans Contagion. Bah oui, enfin.
Bah il y a un moment où il faut manger.
Bah c'est ça.
Tu vois, c'est après.
Juste c'est la survie, quoi.
Vous... C'est la nature.
Non, mais
hein.
Ça digresse trop.
Horrible.
Ok. Bah...
Feel good. Ouais, c'était pas pour faire une ambiance badante, hein. Mais je sais pas, juste, j'aime bien me projeter comme ça dans des catastrophes, donc à la fois surnaturelle et à la fois là très réaliste en fait, parce que y a rien de fou en fait. C'est vraiment, on découvre à la fin de comment ça s'est passé. Juste, pas de chance en fait. C'est vraiment la nature qui crée des trucs bizarres.
Il est disponible où ce film?
Il est sur Netflix et apparemment en fait, il a fait un gros pic d'audience.
En fait, c'est comme si soudainement il y avait un incendie énorme et genre. Enfin, genre, il y avait un risque d'incendie énorme et tout le monde se disait est-ce que je vais aller voir des contenus où il y a tout qui brûle.
Je vais regarder le bazar de la charité.
Oui, mais je sais pas.
Tu sais, t'appuies sur la plaie, tu vois. Ouais.
Mais je sais pas. Peut-être c'est aussi rassurant parce que du coup, tu te dis, en fait, potentiellement, ils ont une partie de la réponse si jamais ça arrive, tu vois.
Oui.
Je sais pas. Bah peut-être que. Attends, il y a quand même des trucs.
En fait, c'est de savoir ce qui pourrait se passer. En fait, c'est plutôt la réponse. Je pense que c'est pas la réponse, mais c'est genre. T'essaies de te projeter, tu vois, parce que
c'est tellement fou, inimaginable. Enfin, partout dans le monde, en fait, les gens qui meurent et qui souffrent de la même cause et de voir à quel point, en fait, on serait pas capable de la gérer, tu vois. Et de voir à quel point on a beau être très chaud sur plein de technologies, être à la pointe et tout. En fait, s'il y a un truc comme ça qui arrive ou c'est une maladie, putain, tu peux rien faire et les gens, ils meurent, quoi. Mm-hmm. Enfin, en tout cas,
Est-ce que vous avez vu que le coronavirus, apparemment, ça attaque plus volontiers les mecs?
Les mecs,
ouais. Ah ouais?
Ouais.
Ah non, je n'ai pas vu ça.
L'œstrogène nous protège.
C'était notre plan depuis le début.
Ah moi, je pense que c'est une maladie inventée par les féminazis.
Parce que les enfants sont cool aussi.
Les enfants ils vont bien.
Ouais. Ah oui.
Donc, les enfants, ceci dit, ça laissera des petits mecs. Mais bon. On pourra les déconstruire, les éduquer tranquillement.
Voilà, c'est
ça. Quand je dis on pourra, j'y serai pas, puisque moi-même étant un mec, je serai mort.
Non, mais t'as assez traîné avec des meufs, toi, c'est bon.
Ah, tu penses c'est que je vais me.
C'est comme mes règles qui arrêtent pas de se décaler, tu vois. Je pense que t'es contaminé. Par la.
Je vais me tartiner la gueule avec de l'œstrogène.
C'est super.
On adore.
Voilà. Bah, donc, merci beaucoup, Marie, pour ce mini-kiff qui nous met bien dans l'ambiance.
C'est ça, c'est super. Allez.
Non, mais je rigole, c'est très cool. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où. Tu sais, t'as besoin de te projeter, enfin de savoir en fait ce qui pourrait se passer.
Ah ouais.
Enfin, moi je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord.
Pas vous ?
Okay.
Non, pas vous, vous avez pas envie de savoir ?
Bof.
Pas envie.
Je sais pas en fait. Je pense que à partir du moment où ça commence à vraiment partir en vrille, je pense qu'on se rend pas compte à quel point ce que l'être humain peut faire. Voilà. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point l'être humain est vraiment un énorme fils de.
Ouais, de ouf. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs adoré Walking Dead.
Tu reviens à tes instincts un peu animaux.
Je vous dis
quoi qu'il arrive, ouais, c'est la loi de la jungle, quoi, tu vois. Donc c'est soit tu te fais manger pour revenir à la route, c'est soit tu te fais manger, soit tu manges, quoi, tu vois.
Mmh, mmh. C'est sympa. Voilà. Et bien passons tout de suite.
De la digression. Doro, tu as un mini kiff sympa. Oh,
hautement intellectuel. Attention, oui. Attention, c'est parti. Mon mini kiff, c'est le thé cher.
Oh, allez!
Thé qui coûte cher, tu peux dire.
Okay, bon, je vais simplifier un peu, mais. En gros, dans la vie, je ne comprenais pas avant, il y a quelques années, le but d'avoir du thé de bonne qualité.
Ah! Je disais, t'es en train de t'embourgeoiser.
De base, souvent. Souvent, tu vois. Genre, en fait, de mon niveau, genre zéro éducation, c'est si c'est pas cher et que ça marche, arrête de prendre la tête, c'est bon. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à être un peu picky sur des trucs, voilà. Oui, donc j'avais déjà un peu ce truc, machin, on s'en fout des couverts avec lesquels on mange, mais quand il y a des invités, on sort un genre tri, tu vois. Truc comme ça. Et donc, j'ai commencé à avoir des envies un peu de luxe sur, je crois que ça a commencé sur des sacs. Que j'ai jamais acheté, et des chaussures que j'ai jamais achetées. Et après, c'est passé sur, je sais pas, genre le pâté. Le pâté.
Okay.
Le pâté de bon boucher. Genre de boucher vraiment bon, tu vois. C'est un truc qui défonce, c'est incroyable, c'est trop bon. Et du coup, je suis arrivée à Paris, et j'étais là, oh super, il y a un Pierre Hermé, je vais aller manger un peu des macarons, mais genre les macarons Pierre Hermé, tu vois. Tu me parlais de la lurée, j'étais là, quoi, attends, pour qui tu prends?
Bah, de ouf, Pierre Hermé, c'est bien au-dessus.
Voilà. En plus, il est asien.
Surtout que les meilleurs macarons, c'est un Quimper, donc je sais pas pourquoi.
Oh!
Ça cloche.
Et est venu le jour où j'ai découvert le thé cher, que j'appelle ça comme ça parce que ça m'a halluciné au début, le prix que ça pouvait coûter. En plus, il y a aussi ce truc de tous les produits un peu de luxe où au début tu sais pas et tu te fais intuber parce que tu achètes la boîte.
Ah oui, exact.
Et ça, c'est le piège. C'est le piège ultime. C'est que si tu achètes.
Tu veux acheter quoi d'autre?
Genre, en fait, si. Non, mais en fait, tu peux acheter en sachet.
Ouais.
Et ça est valable pour les macarons, c'est valable pour plein de trucs. Ou par défaut, ils te font acheter genre le joli pack, tu vois, limite avec un ruban dessus.
Ah, ok.
Ou
d'accord.
Par exemple, ben, tu vas acheter Pierre Hermé. Tu peux, si t'achètes tes macarons, ils te demandent si tu veux la boîte. La boîte coûte autant que les macarons.
Ouais, c'est. Possible.
C'est débile. Yeah. Et c'est pareil pour les boîtes de thé, souvent.
Oh.
Voilà. Ouais. Conserver les boîtes en métal, c'est pratique. Et.
Donc tu te pointes avec ta boîte en métal chez Mariage, ouais. Par exemple, c'est ça?
Non, mais ils te filent un sachet, tu vois.
Ah, ok.
Ils te filent un sachet. Et chez toi, c'est mieux pour la conservation d'avoir, d'avoir un truc en métal, mais.
Okay.
En fait, si t'achètes la. Je crois que la boîte chez Mariage, elle est à 10 euros. 12.
Ah oui.
Oui.
Ça donc, fait des belles économies.
Voilà. Et donc, je suis sortie avec un mec qui ne pouvait que boire du thé mariage frère vanille.
Ça, c'est ça. C'est, en fait, c'est pas que tu t'embourgeois, c'est que tu as commencé à dater des mecs qui sont riches.
Non, qui avaient des goûts encore plus de bourges que moi.
Okay.
Faut pas dire que riche, ouais.
Et je comprenais pas son obsession. Moi, j'étais, ok, vas-y, bois ton thé cher tous les matins, je comprends pas. Et moi, genre, ma passion, c'est les infusions à l'artichaut du chinois.
Oh, l'artichaut, c'est
ouais,
génial.
C'est bon pour la digestion.
Trop bien.
Un petit goût, c'est comme si tu prends du réglisse et t'enlèves tous les trucs dégueulasses sur réglisse, ça donne l'artichaut.
Ah, parce que moi, j'aime
c'est
pas
sympa. Mais tu sais, des fois, c'est trop fort.
Ouais. Ouais.
Et thé à l'artichaut chez le chinois, bon pour la digestion, très bon, petite infusion le soir, tac tac.
Ok.
Et pas cher.
C'est et,
et j'avais un peu oublié tout ça parce que j'avais vidé mon stock de thé cher et du coup, je vais pas acheter du thé cher. Et à la rédac, on a reçu un pot de Kusmi Chai of the Tiger parce qu'ils ont sorti
ah une oui. Oh, il est trop bon
et on l'a déboîté cette boîte vraiment en, on l'a déboîté cette boîte
je l'ai même pas
en très très peu de temps on l'a complètement vidé genre c'est jamais arrivé sur une boîte de thé
c'est vrai.
Parce qu'il était trop bon et maintenant je suis en train de genre me faire un plan d'action sur alors ce week-end je vais acheter un thé bien lequel je prends
choisis le bien
qu'est-ce que je fais et genre mon préféré chez Mariage Frère c'est le Marco Polo c'est celui que tout le
ouais.
Monde prend c'est un peu le basic beach des beach chers
je me sens si pauvre un peu... vous avez tous les rêves de Mariage Frère et genre,
je c'est le classique tu vois tu peux pas te tromper
ouais, c'est vraiment
c'est un peu la Rolex du thé
mm-hmm. Ouais mais qui est trop bon et voilà et je suis genre des fois je suis dans le métro et je me dis ce week-end on s'achète un petit thé bien là. Alors moi je suis team Mariage Frère et je sais que ça il y a un espèce de clash des clans comme les gens qui ont une marque de sac préférée tu vois genre t'aimes bien Longchamp ou t'aimes pas Longchamp tu vois
donc.
C'est des trucs comme ça et du coup je sais qu'il y a la team bon Kusmi qui est dans une espèce d'entre-deux tu vois qui est quand même en grande surface mais qui est quand même considéré comme de la qualité t'as Daman t'as Mariage Frère et genre c'est tous ces trucs où
le palais d'été peu... aussi moi j'ai plein de thé palais d'été parce qu'on me les a offerts mais
pour moi, c'est un petit peu en dessous.
Ouais, c'est un peu en dessous. Je vous ai pas dit ça, mais de moi, t'as éclaté la jugulaire.
Eh ben, papa, maman, est-ce que vous pouvez arrêter de me faire des cadeaux de pauvres?
SVP.
Ah, t'as eu un jugement de valeur de haut, mais vraiment.
Non, mais
de façon très sympa.
C'était
vraiment.
Je le peux en dessous. Voilà.
Excuse-moi, c'est un peu en dessous ton truc. Genre, retourne à ta place.
Mais les coupes, c'est pas bien.
Ouais.
Et c'est pas bon.
Oui.
C'est juste
un peu en dessous.
Le positionnement, il est un petit peu en dessous.
Un petit peu en dessous. Voilà. Okay. Et du coup, je pense que. Enfin, je dis ça parce que j'aurais pas ce truc de kiff ultime, tu vois, de prévoir un achat si c'était pour aller au palais d'été, tu vois.
Ouais.
Alors que le mariage, genre j'y vais. Tu sais, c'est le genre. Non, mais c'est le genre de magasin.
C'est tellement drôle.
Non, mais c'est juste que mariage, c'est le genre de magasin, tu vois, de boutique, machin, où j'y vais et je suis en mode, est-ce que je suis assez bien habillée?
Ah ouais. Pour l'endroit, tu te mets la pression là. Hein.
Non, mais j'essaye de toujours être adaptée à mon environnement.
Ah oui.
Un peu inconsciemment, tu vois, c'est un truc qui turbine.
Ah ouais, t'es un caméléon.
Je sais pas.
Soit maintenant, tu t'habilles pour aller chez Mariage, quoi.
Mais du coup, oui, tu vois. Genre, le week-end dernier, je suis allée à Ikea, j'étais habillée comme un sac, je m'en foutais, tu vois. Et là, ce week-end, je me dis... On va aller se faire une petite excursion, je sais pas encore, bon marché ou peut-être une boutique, tu vois. Je sais pas, mais je vais me faire un peu plaisir, tu vois. Oui. Je veux dire, moi, je vais me maquiller pour sortir acheter des trucs.
C'est trop bien.
Moi, c'est un peu l'inverse. J'aime bien aller justement dans des boutiques de luxe en mode vraiment schlag et au naturel, comme ça, je vois comment ils me traitent. Et le jour où je suis riche, s'il y en a un qui m'a maltraité, je te jure, je l'achète pas.
C'est juste vrai. La planification est incroyable.
Genre, carrément, mon mec, on va essayer des montres Rolex, on va essayer des chaussures Balenciaga, etc. On adore, tu vois. Et on arrive en mode, genre, vraiment, venez comme vous êtes. Et en fait, on voit tellement des fois des vendeurs qui nous traitent mal, on se dit, mais toi, jamais de la vie, je viens dans ta boutique. Et en fait, tu vois des fois la différence de traitement par rapport à si t'es dans un bon marché, justement, qui a une expérience assez particulière, si t'es dans un revendeur un peu random, si t'es chez la marque, etc. Et tu vois, du coup, maintenant, on en a nos petites habitudes. Mmh. On sait que le jour, on va claquer de l'argent, on va aller.
Ouais,
bah, typiquement, au bon marché, je trouve qu'il y a une belle expérience, quoi.
Ouais, ils sont sympas.
La vie de Marie est un revenge movie.
Ouais, voilà.
C'est clair. Et en même temps, c'est très français, je trouve,
oui,
comme truc,
c'est
parce que
ultra français.
Si tu vas aux US, t'es habillé comme un putain de plouc. En fait, tu te pointes chez Porsche pour acheter une Porsche. Les mecs, ils vont juste te dire, est-ce que t'as la thune ou pas pour acheter mon truc.
Exactement.
Et en fait, peu importe, tu t'en fous, ils s'en foutent complètement.
En fait, c'est ce que m'expliquait Alexandre quand on était à Miami. Alexandre, mon petit guide.
Le fameux
Alexou.
El Famoso.
Et non, mais en fait, on est rentré un moment, enfin, parce qu'il nous a fait la visite de tout Miami. Et puis, à un moment, il nous avait dit, si vous voulez rentrer dans des hôtels, allez-y. Puis nous, on se regardait, on était avec nos caouets, moitié en tongs, moitié en slip, tu vois. On était là, on va pas rentrer comme ça. Et il fait, ah non, mais si, parce qu'en fait, les Américains, ils considèrent que, exactement comme toi, Marie, tu vois, genre, ils se disent, si t'es pas client aujourd'hui, tu seras peut-être client demain. Et surtout, tu peux recommander l'expérience à tes potes, tu vois, qui ont peut-être de l'argent.
Exactement.
Enfin voilà. Et du coup, on est rentré chez Tesla et genre on a essayé carrément la dernière voiture. Il savait très bien, il y avait genre 12 enfants puisque j'ai une grande famille. Et il savait très bien qu'on n'allait pas l'acheter.
Mais peut-être un jour.
Ils nous ont quand même laissé l'essayer, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, le client est vraiment roi aux États-Unis, quoi.
À l'américaine.
Alors qu'en France, c'est très. Il y a une personne qui peut rentrer.
Ah ouais, ça me vénère ça.
Dans les boutiques.
Et quand j'y repense, il y a peut-être un petit formatage de la peur d'avoir l'air pauvre.
Alors, j'allais te dire, c'est qu'en fait, je pense que c'est une façon pour toi de venir te dire j'assume pas d'être qui je suis. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de rentrer. Enfin, de fake it till you make it, en fait, tu vois, c'est qu'en fait, tu rentres et tu viens juste dire, j'ai acheté mon sachet de thé, exactement comme, parce qu'en fait, j'ai l'habitude, pour moi, c'est mon sachet de thé du jour, quoi, tu vois, peu importe. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont, enfin, les vendeurs, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'ils pensent, en plus, tu vois, toi, tu viens et tu viens juste claquer ton fric chez eux, il n'y a que ça qui compte.
Ouais, mais alors moi, de base, j'aime pas trop parler aux vendeurs, déjà.
Sauf si ça te fait kiffer de bien t'habiller pour
ça,
y aller, quoi, tu vois.
Maintenant, c'est devenu un kiff, tu vois, mais je me demande si à la base, ça vient pas d'un truc comme ça, tu vois, de toujours faire gaffe à pas. Tu sais, truc de pauvre et snob.
Moi, j'appelle ça le syndrome du prol, n'est-ce pas? Et parce que je suis moi-même petit-fils de prol, vraiment d'ouvrier, et j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, c'était un vrai truc chez moi qui me retenait de faire plein de choses que je pense n'importe qui de plus aisé ou de qui aurait vécu dans des milieux n'aurait eu aucun problème à faire, quoi, tu vois. Ne serait-ce que dans ton rapport, dans ton propre rapport au fric, c'est aussi un vrai truc à travailler, tu vois, de oh là là, j'ai peur de toujours manquer, etc. Et j'écoutais un podcast avec un gars qui disait que lui, il était à fond pour taffer comme à ma boule, etc., etc., et pour faire en sorte de gagner un maximum de trucs, alors qu'il y avait ses copains à lui qui étaient plus fortunés, qui étaient dans des écoles de commerce, etc., qui étaient nés avec peut-être une cuillère en argent dans la bouche, et qu'eux ne se rendaient même pas compte de la chance qu'ils avaient d'être rentrés là-dedans, parce qu'en fait, ils vivent là-dedans depuis le départ, et qu'ils ont tous les codes culturels, et qu'en fait, ça marche sans aucun problème. Et je pense que quand t'es pas là-dedans, t'as un peu ce petit côté « en fait, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir ». Alors que c'est des conneries, en fait, fondamentalement. Alors certes, tu pars de plus loin, parce que Bourdieu est un gros fils de pute, n'est-ce pas? Tu vois qui c'est, Pierre Bourdieu?
Sociologue.
C'est un sociologue qui dit, en gros, que l'héritage culturel, enfin, c'est important de ton héritage.
Que ton milieu, en fait, définit qui tu vas être. Voilà. Enfin, c'est quoi déjà ce...
Les héritiers. Si en gros, tes parents, ils te filent pas seulement juste du fric, mais aussi plein de choses culturelles dont tu te rends pas compte, en fait, qui font juste partie de ta vie, quoi, clairement. Pardon.
Mais c'est très fataliste comme vision du monde de Bourdieu.
Bien sûr.
C'est ultra fataliste. Et en même temps, les chiffres prouvent en général qu'il a raison.
La grande majorité, oui, sûrement.
C'est un peu difficile d'en sortir. Mais
bon. Donc, tu t'en bats les couilles la prochaine fois. Sauf si c'est un kiff.
C'est un truc un peu, presque cérémonial, tu vois.
Ah oui, je comprends. Ça me va.
C'est le petit moment où je vais me faire kiffer. C'est pas. Par contre, je me vois encore avoir des comportements comme ça, tu vois. de l'autre jour, il y a un mec qui m'a envoyé un message et qui avait l'air plutôt sympa. Et en fait, je l'ai pas matché. Et en fait, je l'ai pas matché parce que il était pilote.
Pas matché.
Et j'étais là, non, tu me fais peur. Je sais pas,
tu vois.
Non, je, des fois, je tire ma fourchette n'importe comment.
Et pilote de ligne.
De, je sais pas, de jet, un truc ah comme ouais. ça. Et j'étais là, non.
Ça veut rien dire.
Trop d'argent de différence entre toi et moi. Ça veut et je me suis vu, tu vois. Après, j'ai regretté. Mais après, j'ai regretté, tu vois. J'étais là, t'es con, faut que t'arrêtes.
Oui, parce qu'en plus, c'est une expérience. Enfin, je veux dire, de rencontrer ce mec, c'est
mais
potentiellement une expérience géniale.
Tu vois. Okay. Mais par contre, acheter du thé, c'est pas pareil.
Le thé cher, on adore.
On adore.
Merci, Doro.
On adore.
Pour ce petit kiff. Super.
Super.
Le thé cher. Super cher.
À toi, Fabrice.
Ah, moi, je voudrais vous parler de Koh-Lanta qui revient. Ah, il y a des fans.
Oh, je suis trop contente.
Ça fait trop plaisir.
Ah, j'ai
Koh-Lanta, qui est de retour.
Oh oui.
Et on n'a jamais parlé de Koh-Lanta, je pense, dans LMK.
Quoi ? Bah non.
Je
non,
pense, hein.
Non, ouais.
Ça fait 80 épisodes bientôt et jamais Koh-Lanta qui revient pour la 20e saison.
C'est
vous
rendez
vous compte ? C'est fabuleux. Et donc, c'est fabuleux parce que cette année, ils ont décidé de mettre 14 noobs, dont c'est la première participation, et 5 héros qui sont déjà connus et qui ont déjà fait l'émission par le passé. Et notamment deux légendes folles. C'est Claude qui a gagné, qui détient d'ailleurs le record de victoires individuelles, qui a gagné 11 victoires en
20 ans.
Mais non, combien? Deux participations. Il y a Teyura aussi.
Teyura.
Qui est le meilleur gars qui a dû faire, je pense, 14 Koh-Lanta. Non, je sais pas combien, je sais pas combien il en a fait. C'est son troisième.
Tu sais que je crois que je l'ai jamais vu, moi.
Ah oui. Comment ça?
Bah, je sais pas. J'adore Koh-Lanta. J'ai regardé beaucoup Koh-Lanta, mais je vois pas qui sont les héros. Je suis juste contente de les voir, tu vois.
Mais tu t'en souviens? Parce que Teyura, vraiment, il
Teyura,
est très...
Teyura, c'est un peu coucou dans Koh-Lanta, tu vois.
Ouais, j'ai vu.
Grand baraque, très fort. Mais en fait, je l'ai vu en regardant Koh-Lanta de façon très assidue ce vendredi et j'ai très hâte bientôt pour revoir la suite. Mais aucun, j'ai situé aucun héros. Je suis là.
Ah ouais,
ils ont l'air sympas. Je suis contente qu'ils soient là.
Et puis après, t'as Sandra ou Sarah, je sais plus comment elle s'appelle, Sarah, qui a notamment fait une. Y a pas de fatigue qui soit.
Exactement.
Tu vois, qui est vraiment un truc, moi, qui m'a marqué à vie. Parce que les meufs, à l'époque, sur Mademoiselle, on le commentait en direct sur le forum. Et donc, y avait carrément une meuf qui avait pris le gif en direct, qui avait réussi à faire, je sais pas comment, un gif en direct et qui l'avait balancé. Et il y avait plein de meufs qui faisaient des légendes, sur ce truc où, en fait, elle est en train de pagayer comme une ouf. En disant « Il n'y a pas de fatigue qui soit !» En hurlant comme ça, bon, bref. Et elle fait partie des 5 héros. Et donc, si j'ai bien compris, à un moment donné, ça va venir les héros vont venir aller dans les équipes des noobs. Et
les noobs ne sont pas au courant qu'il va y avoir des héros.
Personne n'est... Voilà. Donc, c'est-à-dire que les héros, ils arrivent individuellement et ils ne sont pas au courant qu'ils vont se retrouver avec d'autres héros. Et ils ne sont pas non plus au courant de ce qui se passe de l'autre côté de l'île parce qu'ils ne savent pas. Et les noobs, ils ne savent pas du tout qu'à un moment donné, ils vont se retrouver avec des légendes du style de Koh-Lanta et qui, en plus, je pense qu'il faut comprendre qu'au sein des candidats de Koh-Lanta et des gens qui candidatent pour Koh-Lanta, il y a vraiment des gens dont c'est l'objectif de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu un truc fou. Qui peuvent candidater pendant 10 piges. Je pense que c'était le cas de Cyril de Koh-Lanta, si je ne me trompe pas.
Le petit gars, là, qui est dans cette saison.
Je parle de Cyril qui était là l'année passée. Qui
traînait tout le temps avec Maud.
C'est lui qui traînait tout le temps avec Maud et qui faisait notamment partie de l'équipe des Creveilles Pailletées.
Et qui a fait une histoire de couple.
Il est venu faire une histoire de couple, on mettra un lien. Parce qu'il parle exactement de comment ça se passe du côté du couple, justement, qu'ils n'ont aucune news pendant toute l'aventure de l'autre côté. C'est-à-dire que toi, t'es à Paris comme un couillon et t'attends, t'as zéro news, tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que tu te dis, peut-être qu'il est en train de crever, on ne sait pas. Et donc voilà, c'est un vrai, vrai truc. Et notamment, cette année, il y a ce petit gars là qui a 20 ans et qui, alors j'ai plus le prénom en tête,
mais
qui veut devenir militaire de formation, enfin qui veut devenir militaire clairement, et qui est en mode je suis un survivant, moi, c'est ma vie, c'est de faire Koh-Lanta. Donc là, il est dans son truc de Koh-Lanta. J'ai un peu peur pour lui, parce que souvent, les gars qui partent un peu en mode je suis solo et en fait, en gros, je vais réussir à tout faire parce qu'ils sont vraiment ultra forts et que le mec, il a fait le feu. Tout seul, sans rien. 2 minutes 30.
C'est incroyable. Enfin, là, j'étais bluffée.
Je sais pas si j'ai jamais regardé Koh-Lanta.
Mais tu te rends compte de faire du feu sans rien?
C'est dur de faire du feu quand même.
Dis-toi de faire du feu sans rien. Le gars, il a fait du feu sans rien.
Sans rien.
Il a juste pris un bout de bambou. Il a coupé comme ça, après, il a fait. Il a frotté pendant très très longtemps.
Il était très serein.
Pas très longtemps, du coup.
Environ 30 secondes, vraiment. Mais à toute vitesse. Vraiment. Et puis, il a fini par faire du feu tout seul.
Il a gagné le respect de son équipe en faisant ça.
Il a gagné le respect de vous. Non mais vraiment.
On dirait la commentatrice de genre. Il non, a mais... gagné le respect de son équipe. C'est, voilà, complètement.
Mais le problème avec ces mecs souvent, c'est qu'il y a un peu, ils ont un peu un profil de loup solitaire, si tu veux, et le groupe déteste ça. Et même si le groupe a besoin d'eux, parce qu'en fait ils finissent par être indispensables pour la survie, ils finissent aussi par dire, en fait, t'es relou, tu fais tout dans ton coin et va mourir, quoi. Donc ça commence déjà. Ça.
Ouais, déjà premier épisode, on sent que ça va partir en couille.
Bah, c'est déjà bien parti en couille.
Est-ce
que parti en couille ?
Enfin, moi j'ai une vraie question, tu vois, Koh-Lanta. Pour moi, c'est une émission qui est ultra codée. Et genre, il y a des trucs qui reviennent vraiment tous les ans. Ça vous lasse pas du tout?
Il y a des épreuves qui reviennent tous les ans.
Ouais, il y a un
ça,
code qui revient tous les... Enfin, tu vois, les équipes, après, oui, ils mélangent les équipes.
Ouais,
enfin,
ouais, ouais, ça reste un peu schématisé, tu vois.
Voilà.
En fait, mais c'est comme n'importe quelle partie de Monopoly. C'est-à-dire que tu peux faire plein de parties de Monopoly. Ça dépend des gens qui sont autour de la table. Ça dépend de ce qui se passe. Ou un match de foot, voilà.
Le c'est-à-dire but, c'est mettre des buts. Hein.
Non, mais tu vois, sur, genre, par exemple, sur le feu, qui est un truc assez emblématique, tu vois. Qui est vraiment important dans le jeu. Surtout dans la création des équipes, c'est au début les gens ils se connaissent pas, tu vois, c'est un truc qui est vital parce que vite il pleut et après t'as froid et t'as l'impression que tu vas crever, tu peux pas manger et tout, et du coup t'as l'impression, enfin le feu c'est toujours une étape, et il y a des années où vite fait on en parle à peine parce que ok bon ils ont un peu galéré, ensuite ils l'ont fait, des fois c'est le centre d'attention et c'est le bordel, et là dans le premier épisode de cette saison c'était n'importe quoi et c'était génial, tu vois, et genre lundi je crois qu'on en a parlé pendant 25 minutes de cet épisode qui s'est déroulé sur d'un côté un mec qui fait le feu très vite et de l'autre un mec qui pète un câble parce qu'il pense que c'est la responsabilité de sa life, tu vois, et qui est vraiment il se met une pression tout seul, il est au bout de sa vie, il est là, j'ai dit que j'allais faire le feu, je vais réussir à faire le feu, parce qu'on m'avait dit que j'allais faire le feu, j'avais dit que j'allais faire le feu, et du coup si j'y arrive pas, ils vont m'éliminer, et du coup, et il devient zinzin,
le mec
tout l'épisode, c'est juste
tout seul.
Lui qui devient fou, c'est incroyable, et en fait, alors que, tu vois, ça fait partie de ces étapes-là, et dedans, t'as plein de trucs, tu vois, t'as, la course d'orientation à la fin, après il y a des trucs genre les, je sais plus comment ça s'appelle,
le tir à l'arc, il y a souvent
les poteaux, c'est ultra connu.
C'est le truc le plus connu,
parce que moi c'est vraiment la seule fois où j'ai vu Koh-Lanta, c'était hyper drôle parce que du coup j'étais avec mon ex et on avait décidé que ce soir là on se voyait pour rompre, tu vois, et donc j'arrive chez lui et il me fait, je suis désolée Alix, mais est-ce qu'on peut genre se parler et tout, mais mettre les poteaux?
Mais non.
Oh, t'as rompu génial. Devant les poteaux.
Du coup, j'ai rompu devant les poteaux.
Meilleure histoire.
C'est incroyable.
C'est un très bon titre d'épisode. J'ai rompu devant les poteaux de Koh-Lanta, franchement, meuf. Tu l'as.
Voilà, c'est vraiment la seule fois que je regardais Koh-Lanta.
Bah, c'est sympathique comme moment,
Bon ouais, effectivement, il y a toujours des, enfin tu vois, il y a des grands repères, mais je pense aussi c'est ce qui te permet toi en tant que téléspectateur de dire ok, en fait on est à peu près à ce moment-là de l'émission, et ça te file des repères toi, surtout si comme moi vous regardez depuis 20 piges, parce que moi vraiment je regarde depuis 20 piges, et c'est vrai qu'il y a des saisons où je me suis un peu plus ennuyé que d'autres, mais globalement cette émission, alors j'en parle avec Denis Brognard, n'est-ce pas, parce que excusez-moi, c'est le moment de le placer, mais j'ai interviewé ce gars génial que je trouve génial et qui en vrai dans la vraie vie génial, qui s'appelle Denis Brognard, qui est le présentateur depuis maintenant 19 ans, donc depuis la saison 2 de Koh-Lanta.
T'as vu comment j'ai écouté ton podcast?
Effectivement, dans la première saison il fait la voix off, et puis dans la deuxième saison il lui propose de faire le présentateur, et en fait c'est ce que je trouve génial, c'est que pour moi c'est la meilleure émission de télé-réalité de toute la télé d'une manière générale, et un peu comme Survivor aux US, donc qui est un peu le pendant aux US de Koh-Lanta. Y a un truc fantastique, c'est que ils sont vraiment dans des conditions tellement difficiles qu'en fait à un moment donné, quand vous n'avez pas bouffé pendant 30 jours, que vous avez la dalle, que vous avez perdu je sais pas combien de kilos, qu'en plus à côté de ça, il faut grimper sur des putains d'arbres et tout, parce que en fait, sinon, si tu grimpes pas, tu vas pouvoir te faire foutre en danger et sortir du jeu. T'as beau être le meilleur stratège du monde, il y a un moment donné où t'as la nature qui ressort, t'as juste envie, si t'as vraiment un casse-couille qui te casse les burnes depuis des semaines et des semaines, et avec qui tu te dis ok, il faut que je la joue fine avec celui-là, parce que si je me le mets à dos, peut-être il va pouvoir me mettre à dos toute l'équipe, etc., et je vais pouvoir me faire sortir. quand t'as faim, à un moment donné, le mec, il te fait un truc de trop et tu lui en colles une. Et j'ai vu, il y a eu des retournements de situation, des mecs qui pètent des plombs de façon complètement random où tu dis d'où ça sort. Mais juste, le mec, il a la dalle, il a faim, il n'a pas dormi, il est cuit, il est au bout du rouleau. Et c'est là qu'on voit le vrai de l'humain, le sel de ce qui fait l'homme, tu vois, l'homme avec un grand H, hein, n'est-ce pas? Et c'est toujours génial. Enfin, je sais pas ce
et puis, t'as le temps aussi de le voir monter. Et tu vois, on parlait de Love is Blind, où en fait, tous les... Donc, Love is Blind, télécroché sur Netflix...
Vous mettrai mon article dans les liens de ce podcast.
Oui, voilà, où c'est, en gros, du speed dating, des rencontres de dating, machin, pour voir s'ils peuvent se marier ou pas, sans cette vue, avant de se fiancer. Et tout en fait, le truc, tous les moments où ils sont interviewés, ils sont en train de parler de
leur relation.
Ils sont en train de faire un bilan de ce qu'ils ont vécu.
Ouais.
Et t'as très très peu de moments où tu les vois vivre.
Ouais.
Et alors que Koh-Lanta, t'as vraiment le temps de les voir vivre.
Ouais.
Et y a pas, enfin, les bilans, c'est le conseil avant l'élimination, à la fin de l'émission. C'est un petit temps. Le reste, ils sont en train de douiller, ils sont en train de travailler, ils sont en train de s'arracher, tu vois. Et ou en train de bronzer, ça arrive aussi dans certaines
émissions. C'est filmé par des caméramans ou par caméras qui...
Ah ouais,
caméras,
il y a une grosse bâtard.
Ah mais mon rêve.
Mais t'imagines être caméraman et tu vois les gens mourir de faim et toi t'es là, bon bah je vais à l'hôtel, je reviens.
C'est ouf.
Non mais en vrai, il douille aussi, tu vois. Genre, vas-y, porte ta cam sous la pluie à 3h du mat pour montrer qu'il y a un scorpion qui est rentré dans la tente, tu vois.
C'est clair.
C'est aussi un délire, quoi. Mais j'adore la réalisation de Koh-Lanta. Oh là là, maintenant ils ont des drones et tout.
Ouais, c'est clair.
Reviens.
Bah merci beaucoup Fabrice pour ce kiff enthousiasmant.
Tu sais que je suis très comment dire, je suis vraiment le cul entre deux chaises pour ce vendredi parce que il y a Koh-Lanta mais il y a aussi la sortie de la saison 2 de Formula 1 Drive to Survive.
Ah,
je suis dans la merde. Et ouais.
Tu sais qu'il y a le replay qui marche très bien sur TF1.
Oui, bah oui, mais bon, j'ai pas le temps de regarder un replay. Du coup, il faut absolument que je regarde en live, sinon je suis dans la merde.
Ah oui, voilà. Je comprends.
Donc voilà, dédicace à tous les LM Crado qui vont regarder.
Mais oui,
la
bien sûr, Formula 1.
Je le glisse comme ça vite fait, ça sera peut-être un kiff dans quelques semaines.
Ouais, la saison 2 qui démarre.
Ouais.
Trop, trop bien.
Mais c'est trop cool, Koh-Lanta. Ouais.
Bah, franchement, il y a quand même.
Marie, tu devrais postuler à Koh-Lanta.
Non. Moi, j'adore Koh-Lanta, mais je passe jamais à la télévision, en fait. Non. C'est
oui, mais.
Marie, ce sera la meuf de dos dans Koh-Lanta.
De ouf. C'est mort, jamais de la vie.
En revanche, il y a vraiment un profil, je pense.
Oui, je pense.
De meuf un peu déter, comme ça.
Mais justement, en fait, je trouve que j'adore Koh-Lanta, mais quand même, je pense que la production, parfois, elle met un peu en avant des caractéristiques des gens. Tiré à l'extrême, tu vois.
Ah
typiquement,
ouais
le petit gars qui veut être militaire et tout, franchement, sa présentation, c'est un malaise. C'est un malaise de A à Z. Ah, si.
Bah, c'est lui qui l'a fait, sa présentation.
Ouais, non, mais
pas.
Ils font des plans, genre, je sais pas, dans la forêt, là, ils courent, ils regardent comme ça vers. Il dit Koh-Lanta, c'est mon rêve, c'est ma vie. Je suis genre, oh, miskin, enfin. Tu vois, j'ai pas du tout envie d'être mis en scène comme
mais
ça.
Mais t'es pas obligé de faire ça, parce qu'ils sont très peu à faire ça. C'est le mec qui décide à un moment donné de
faire
ça, quoi.
Non, de toute façon, jamais de la vie, je fais de la télévision, donc. Voilà.
Ok, vous l'aurez entendu ici en premier,
exactement.
Mais peut-être un jour où Marie aura décidé de faire
Koh-Lanta. Même pour devenir Denis Brogniart.
Oh. Ah, pour animer Koh-Lanta. Pour animer Koh-Lanta, ouais. Mais bon, c'est des compétences que j'ai pas forcément, je pense, mais non, jamais sinon. Voilà. Chapitre clos,
merci Marie. Merci. Ça me permet
de dire ton
transitionner
kiff.
Vers mon mini-kiff.
Oui.
Mon mini-kiff, c'est un mini-kiff de travail.
Oh.
C'est que, ben j'en ai pas encore parlé dans l'MK, mais il y a pas longtemps, j'ai lancé le podcast 20 ans d'âge.
Oui.
Donc c'était une idée à la base de Loulou, donc ça faisait longtemps qu'il était dans les bacs. Et du coup, à un moment, on s'est dit, bah, faut faire, hein, faut y aller. Et donc voilà, donc l'objectif c'est d'interviewer des gens qui ont 20 ans et de leur parler de leur rapport à leur âge, de cet âge un peu bizarre entre adulte et ado, tu vois, où t'es pas vraiment encore complètement fini et en même temps t'es censé être
pleine construction,
ouais, non, c'est ça.
I'm not a girl, not yet a woman.
Oh, voilà. C'est bon.
Comme dirait Britney.
Meilleur rêve. J'adore quand tu. Quand tu cites Britney.
Bah,
ah, non, bah, vrai, j'ai jamais l'air de cette chanson. C'est quoi l'air de cette chanson? C'est
I'm not a girl. Non, pas du tout. Not yet a woman.
Le mec, il s'est lancé, on lui a rien demandé, il a poussé la chansonnette, quoi.
Non, mais si, c'est une vieille chanson. Pour moi, en fait, quand j'ai lancé Mademoiselle et qu'elle a sorti cette chanson, je me suis dit, ah, mais c'est exactement ça, Mademoiselle.
Mais cette phrase est dans toutes les bios de Mademoiselle, en fait.
Ouais, bien
je
sûr.
Vois pas la mélodie.
Mais bah, tu tapes I'm not a girl, not yet a woman dans YouTube, et puis voilà, tu mettras le lien.
Bien sûr, je mettrai le lien.
S'il te plaît, Alix, dans les notes du podcast, voilà.
Mais voilà, et en fait, ça m'a fait super plaisir de lancer un nouveau truc. Enfin, ça donne un nouveau souffle, et en plus de discuter stratégie, comme je l'ai fait avec toi, Fab, ah, se dire, bah voilà, quel épisode on soit en premier, après comment on fait. C'est super difficile parce qu'il faut réfléchir, tu vois. Et
Oh, il a fallu mobiliser mes neurones.
Non, mais c'est un truc que t'avais jamais fait, peut-être, tu vois.
Oui, voilà, c'est ça, c'est que j'avais jamais fait, tu vois. D'habitude, bah maintenant, moi j'ai juste repris les podcasts de Mademoiselle, ou si, il y a Sort le Popcorn qu'on a créé, mais c'était avec Mi, tu vois. Enfin, c'est... Là, je me retrouvais un
bébé.
Peu
ouais.
toute seule face à toutes ces personnes qui. En fait, qui postule à 20 ans d'âge, et c'est trop cool, tu vois. Ça veut dire qu'il y a vraiment un truc et il y a vachement d'engouement, tu vois. Donc ça, c'est trop stylé. Mais ouais, je me suis retrouvée comme ça et j'étais là. Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que ça va être? Et en fait, je fais des
conclusions.
Bah ouais, franchement,
ouais,
ça va.
En vrai, ça va.
Non, mais il y a 3 épisodes là qui sont sortis ouais. à l'heure où vous écoutez. Il y en a un, le premier avec Zoé, qui était une ancienne stagiaire de chez Mademoiselle, avec qui je m'entendais très bien et que je m'entends toujours très bien et qui est super. Donc ça, c'était le premier épisode et je trouvais que c'était un super épisode pour lancer. Et puis après, on a eu Charlie qui a fait sa toute première interview et Charlie qui fait les petits tips sur Mademoiselle.
Qui sera historiquement la toute première interview de Charlie de tous les temps. Parce que Charlie, je pense qu'elle va... C'est très loin d'être sa dernière interview dans sa vie.
C'est loin d'être fini
pour elle. Voilà, effectivement. Ah
ouais, mais voilà. Et là, du coup, il y a un petit mec qui est venu faire l'interview qui s'appelle François.
Qui est sorti hier, c'est ça
enfin, elle est sortie mardi.
Dernier, donc si vous...
Voilà.
Elle est disponible.
Elle est disponible à l'heure où vous écoutez ce podcast, à l'heure où on l'enregistre, c'est pas encore disponible, c'est pour ça que les gens dans cette pièce ne l'ont pas encore écouté. Mais voilà, et c'était trop bien, en fait, de l'interviewer. Enfin, en fait, je sais pas, c'est un mec qui m'a envoyé un mail et je me suis dit...
C'est lui.
Il y a un truc dans ce mail, tu vois, genre vraiment, j'étais là, je le sens bien. Et en fait, il est venu parler, on a parlé pendant une heure et j'étais là, trop bien cette conversation, enfin, tu vois, j'ai trop kiffé. Et tu sais, quand ça marche bien, une interview comme ça,
quand ça prend.
C'est ultra cool d'avoir une vraie conversation. Enfin, j'ai déjà fait des kiffs sur les interviews parce que j'adore ça, mais du coup, ouais, je sais pas, ça a trop bien pris. Et ouais, je m'amuse vachement en fait à faire ce podcast. Donc si vous l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Ça sort un mardi sur deux et c'est des gens de 20 ans. Si vous avez 20 ans et que vous avez envie de participer, envoyez-moi un petit mail. podcast@mademoiselle.com, il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'était
c'est
mon
super.
Petit
tour. C'est une trop bonne idée et en plus je pense que ça marche trop bien parce que c'est une fenêtre aussi pour tous les gens qui n'ont pas 20 ans, donc pour les plus jeunes qui n'ont pas encore 20 ans qui disent ok, c'est ça d'avoir 20 ans, et pour les plus vieux ou pour les plus vieilles de se dire ok, en fait mes 20 ans n'étaient pas les mêmes 20 ans que ceux que les 20 ans ont aujourd'hui. Quoi, tu vois.
Et puis même entre
important.
Les 20 ans, tu vois, il y a plein de différences. Enfin, là, j'en ai fait du coup... Parce que j'ai des petites interviews d'avance, hein, vous imaginez bien.
Ah ouais,
voilà, donc il va y avoir d'autres personnes assez cool à venir dans ce podcast. Et c'est ouf de voir comment chacun vit différemment ses 20 ans à l'intérieur. Après, t'as des trucs qui reviennent beaucoup, notamment sur l'avenir, comment tu vois l'avenir et tout. Beaucoup vivent la chose de la même manière, tu vois. C'est une génération qui avance complètement dans le flou total, tu vois. Une espèce de... Pas de pessimiste, hein, parce que en fait, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient pessimistes quand je les interviewais, mais juste aucune idée. Ouais. Alors que je m'imaginais mes parents à cet âge-là, ils étaient là, en fait, dans 10 ans, je fais ça, puis dans 20 ans, je fais ça,
bien
puis t'avais un chemin un peu tracé. Aujourd'hui, on est là, moi, je suis arrivée en école de commerce, on m'a dit, tu sais quoi, ton métier, tu le connais pas encore, il n'existe pas encore.
C'est une belle tagline, ça.
Ouais, il m'a dit, ils m'ont dit, en fait, il y a 50% des métiers du futur qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, comment on forme les gens aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas encore? Et c'est vrai que charger les podcasts, j'avoue que je ne savais pas que ça existait.
Même pas ce que c'était les podcasts.
C'est pas moins inquiétant quand t'es dans des filières comme la mienne, par exemple, où on nous disait de but
c'est
en blanc
filière
au début.
On t'explique aux gens.
Oui, pardon. Informatique, développement...
Si, t'en avais parlé la dernière fois.
Et en gros, c'est des endroits où on nous dit t'es là pour apprendre à apprendre. Et on te le dit de but en blanc jour 1, quoi.
Ah oui, okay.
C'est, en fait, il y a trop de langages de programmation pour qu'on te les apprenne tous. Ça sert à rien de t'apprendre à te parler des langues alors qu'on peut t'apprendre l'étymologie, quoi.
Ah, ouais.
Et c'est toujours dans ce truc-là et dans cette lucidité aussi qui est de l'informatique, le web et tout, de se dire, en fait,
c'est hyper
on va pas t'apprendre un métier parce que déjà, il y en a tellement que tu peux faire après en fonction de où est-ce que tu vas te spécialiser, ce que tu veux faire et tout. Et tes limites aussi. Et du coup, je pense que dès la sortie du bac, c'était comme ça qu'on me l'a présenté. Quoi. C'était,
et c'est trop bien.
On est là pour t'apprendre à
apprendre. Grave. C'est et c'est surtout, cool. ça te rend ultra adaptable, je trouve. Et t'es flexible. Mmh. Qu'avant, impossible d'être flexible. Enfin, on a toujours fait comme ça. Mmh. C'est quand même une phrase de personne non flexible, tu vois. Non, mais voilà, du coup, ouais, j'apprends plein de choses au contact de ces petits jeunes.
Ah, écoute la daronne ici.
Non, je rigole, en plus, je m'entends trop bien avec, j'ai trop envie d'être leur pote. Mais voilà.
Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence entre avoir. T'as quel âge ? T'as 24 ou 25 ?
J'ai 24.
Il y a une grosse différence entre 20 et 24, je trouve. Tu vois ?
Bah ouais, parce
imagine,
que
eux, ils sont en plein dans leurs études, où ils démarrent tout juste, et toi, tu viens de les terminer.
Ouais.
Et en fait, je pense que d'ici un an, tu auras complètement oublié de ce que c'est que d'être étudiante. Parce
c'est
que
clair.
C'est trop loin, quoi. Ouais, tu vois, si tu vas à toute vitesse.
Ça va très vite, attention.
Attention. J'adore. Et ben voilà, c'était mon mini kiff.
Ah bah, hey.
Bravo Alix, c'est trop cool.
Bravo.
Et je vous propose de passer au gros kiff.
Oui.
Jingle.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, 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 oh. C'est l'heure des méga kiffs. Eh oh, 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 oh. Ça va être des gros, gros kiffs. Eh oh, est-ce que tu m'entends? Eh oh.
Waouh!
Wow.
Yes. Merci wow. Valentin!
Merci Valentin!
Quel talent ce Valentin!
Valoche! Bon, du coup, Marie, c'est à toi de renchaîner.
C'est à moi? Ouais, c'est parti. Alors, mon mini kiff, c'est.
Ton gros kiff.
Ah, pardon. Je suis perdue. Mon gros kiff, c'est du très intense hip-hop yoga.
Ouais!
Bra!
Bra! Bra!
Ouais! Alors, en fait, pour vous expliquer, moi, j'aime pas trop le yoga de base. En fait, je pensais que j'aimais pas trop le yoga parce que j'en avais une image un peu stéréotypée de tu t'assois sur un tapis de yoga, tu te détends, tu
es
un peu douce, ouais. etc. En fait, moi j'aime bien les sports qui tabassent vraiment et qui me font me sentir KO à la fin de la session.
T'en aurais pas fait un article par hasard sur
Rocky ? Si, j'ai fait un article sur Rocky.
On pourra pas mettre un lien ?
Ouais, bien sûr, j'ai fait un article qui était effectivement je pensais que le yoga n'était pas fait pour moi, j'avais tort. Et j'ai découvert le yoga grâce à Cassandre notamment. Et à un studio de yoga qui est pas très loin du travail, qui s'appelle Slow, avec une prof super chouette, où on pratique en fait du vinyasa yoga, qui est du coup déjà de base un yoga assez dynamique, où en fait on enchaîne pas mal de positions, et clairement ça bosse de ouf, et genre j'ai la goutte quand je fais du yoga avec cette prof.
J'ai la goutte.
Ça te fait taffer un peu de cardio, goutte. Quoi.
Ouais, clairement, c'est cardio, c'est force, parce qu'il y a les abdos, il y a les cuisses, il y a même un peu de bras, etc. Et du coup, j'en sors satisfaite. Donc déjà, première step de passer, je me dis, cool, il y a un certain type de yoga qui est fait pour moi. Parce que tous les yogas ne vont pas me satisfaire, je pense, mais celui-là, il me satisfait. Et en fait, là, on est en partenariat avec Nike, et on a la chance de pouvoir participer à des cours de sport avec Cassandre. Et entre autres, du coup du yoga qui s'appelle du coup du très intense hip-hop yoga.
Ah, ça s'appelle très intense, ouais. Hip-hop yoga.
Exactement.
Ah,
oui, okay. C'est le nom, c'est le wording.
Je pensais qu'elle était là, c'est du très intense hip-hop yoga.
En fait, ça s'appelle même du tihi, et en fait T-I-H-H-I, voilà.
Wow.
Tihi, très intense hip-hop yoga, voilà. Et en fait, c'est un concept de yoga qui a été créé par une meuf qui s'appelle Clotilde Chaumet, qui est du coup la prof qu'on a la chance d'avoir avec yoga et quelques autres personnes qui font les cours avec nous.
Waouh,
et...
OG.
Ouais, exactement. C'est trop. Enfin, en fait, moi, Clotilde, j'avais suivi un peu son travail il y a quelques années déjà quand elle avait commencé à faire des cours de cycling à Paris. Donc, le cycling, c'est des cours de vélo en fait intensifs. Vous voyez, les lumières sont éteintes, il y a de la musique à fond.
Ouais, il y en a souvent dans les séries ces temps-ci.
Voilà. Et ben, en fait, elle a été une des premières profs à Paris voilà, à en faire et surtout à être connue pour ça. Et moi, j'avais déjà été à un de ces cours de cycling, mais j'avais jamais l'occasion d'aller à un de ces cours de yoga puisque de base, je n'aime pas le yoga et que ça coûte un peu rush quand même, c'est 20 euros la session. Donc je m'étais dit, ah, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas avoir la chance de le faire. Là, c'est le cas. Et du coup, ben en fait, j'ai fait 6 cours avec elle et c'est trop bien parce qu'effectivement, donc déjà, c'est du yoga très dynamique comme j'aime et encore plus poussé, je pense, que ce qu'on fait avec Cassandre chez Slow, tout près du travail. Et du coup, c'est sur du gros, gros son de hip-hop. Et c'est ça que je trouve vraiment cool, c'est que, en fait, il y a une espèce de décorrélation entre le yoga, qui est quand même un sport, mine de rien, assez relaxant, même si c'est du yoga dynamique, c'est en général des musiques un peu calmes ou un peu sonores, relax.
Les bols tibétains.
Voilà, exactement, les bols tibétains. Et en fait, là, non, Clotilde, elle met du grand Drake, du grand Jay-Z, du grand Kanye West, enfin,
bols tibétains,
enfin voilà, et voilà, aussi du rap français, etc. Et du coup, ça te met dans un autre mood, et du coup, elle incarne vachement bien le truc. Elle est sapée en streetwear, elle a pas du tout les clichés, les stéréotypes, en tout cas d'une prof de yoga. Et en même temps, elle est super détente, tu sens qu'elle est quand même super apaisée. En début de cours, elle te raconte une petite histoire qui te détend, qui te fait prendre un peu de recul sur ton quotidien, etc. Mais par contre, quand on est dedans, en fait, ça tabasse. Et du coup, je suis trop contente parce que je progresse, je pense, plus avec ces cours. Et même Cassandre me l'a dit. Cassandre, elle m'a dit qu'en fait, en quelques cours avec Clotilde, elle avait vachement progressé en un an d'exercice, quoi. Et parce que
Clotilde, ah ouais, à ce point.
Ouais, enfin, elle fait des trucs de ouf là maintenant, Cassandre. Enfin, elle est déjà très très chaude, mais là, elle m'a dit qu'elle avait vraiment progressé de ouf et qu'elle était trop contente. Et aussi parce que souvent dans les cours de yoga, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, donc on fait les postures, etc., le schéma un peu classique. Et au moment où il faut un peu se mettre en difficulté, le prof de yoga, il va jamais vous pousser à fond à le faire. Il va vous dire, bah en fait, si vous voulez le refaire chez vous, vous pourrez faire ça, etc. Et du coup, au final, tu le fais jamais.
Ça dépend des profs, hein, mais.
Bon, alors moi, je suis pas avec ça parce que vraiment, je connais que deux profs de yoga dans ma vie.
Il y a des profs qui te poussent un peu, tu vois, à corriger les positions, à te faire
ouais,
les
même
trucs
pas,
et tout. Quoi.
Pas corriger les positions, mais vraiment à te dire, bah en fait, tu veux faire, peut-être tu veux tenter un headstand, donc en fait, te mettre la tête, à l'envers, etc. En fait, c'est pas juste, tu vas essayer, c'est juste, tu vas le faire, même si tu tombes, en fait.
Ouais.
Et du coup, Clotilde, elle est vraiment là-dedans, en mode, en fait, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de machin, juste, tu veux le faire, bah, tu vas vraiment essayer de le faire, et pas, tu vas juste dire, ah, moi, je suis débutante, hein, je peux pas le faire. Ouais. Elle va dire, non, bah, c'est pas grave, tu le fais. Et du coup, t'as pas le choix, quoi. Et c'est vachement cool. Et c'est du coup un exercice qui met vraiment de la force. Parce que concrètement, genre vraiment, il y a des séances où on est sorti avec Cassandre, on était cassés. Et genre, moi, j'étais là, putain, trop bien. Ah, trop bien, on a bien taffé, t'as vu. Et en même temps, c'est très, très focus aussi sur la souplesse. Parce qu'on fait des trucs de ouf. Moi, en général, Clotilde, elle vient à chaque fois m'aider parce que, genre, je suis pas souple du tout. Donc, je la vois venir derrière moi en train de dire, attends, tu peux te tourner encore un peu plus. Et aussi, la spiritualité. Parce qu'il y a quand même ce côté. Avant et après la séance de on prend le temps juste de respirer, d'écouter son souffle, de prendre du recul sur la situation, etc. Et ça, c'est cool, parce que ça fait quand même partie du yoga.
Est-ce que tu progresses en souplesse?
Non, parce que je pratique pas assez, je pense. En fait, en plus, comme je fais pas mal de course à pied, la course à pied, c'est le pire truc pour la souplesse.
Ah ouais?
Ça te raidit, mais de ouf. Ouais.
Okay.
C'est pour ça que le yoga, c'est cool aussi.
J'avais l'impression que, ça, au contraire, ça t'allongeait les muscles.
Ah non, pas du tout.
La course à pied.
Ah ouais, non, ça te raidit de ouf.
Okay.
Je sais pas comment l'expliquer parce que j'ai pas l'info.
Ça tasse,
c'est très violent, tu vois. Donc t'as aucun moment où tu peux décortiquer ton corps.
Okay.
Et Clotilde, de manière générale, enfin moi voilà, je la suivais sur Instagram avant d'avoir la chance de participer à un de ses cours. Elle est trop stylée et en fait elle va à contre-courant en fait du yoga traditionnel, de l'image qu'on peut en faire, et en fait c'est cool, tu vois. Elle prouve aussi que c'était pas forcément un chemin tout tracé de associer le hip-hop et quelque chose de peut-être un peu street à du yoga. Et d'ailleurs elle en a fait un TED où en fait elle raconte un peu tout ça. Son TED, il s'appelle Tu ne peux pas, et il est sur YouTube, vous pouvez le trouver facilement. Et puis voilà, elle déconstruit ce côté en fait comment elle a aussi accepté le fait de pas faire du yoga comme les autres. Et malgré le fait qu'on lui dit, en fait, c'est pas comme ça, le gars, en fait.
Pourquoi tu suis
pas
le chemin tracé. Voilà. La pensée normative, c'est de la merde.
Pardon. Exactement.
Sois flexible. Apprends à apprendre.
Sois souple. Et voilà. Et du coup, je suis trop contente. Parce que déjà, c'est un cours ultra quali en petit comité. Enfin, voilà, on est en général 4-5 max.
C'est vrai.
Ouais, c'est trop bien. Elle prend le temps. Moi, le petit kiff que j'ai à la fin, c'est que quand on est allongé et qu'on se détend, elle vient nous masser un peu le cou, là. C'est
non mais wesh,
avec des petites huiles essentielles.
Mais non,
c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et demain matin, je vais faire un cours avec elle de sound bath. Donc en gros un cours de musique spirituelle où en fait c'est un mélange de méditation et de relaxation.
Marie.
Ouais, je me lance là-dedans.
Marie.
T'as géchant.
Je le fais juste parce que c'est Clotilde. Et en fait le bail c'est qu'on va être
méditer.
On va être allongé. On va être allongé. Cassandre, elle m'a dit tu te couvres bien parce que Cassandre elle a déjà fait la semaine dernière.
Il fait froid.
Il fait très froid et surtout bah, en fait c'est le matin. Tu viens de dehors.
Tu bouges pas. Il fait froid.
C'est dans une salle au sous-sol qui est très belle, mais en fait, en pierre, du coup, tu te l'écailles. Et donc, en gros, elle va nous raconter des trucs en faisant de la musique sur des bols.
Voilà.
Donc, ça, c'est parce qu'elle t'a fait des petits massages. Hein.
Ouais, ça m'a aidé à venir.
Elle t'a eu au massage. Elle t'a eu au massage.
Ouais. Voilà, donc c'est trop cool. Je vous invite à peut-être vous poser des questions sur les sports ou les pratiques qui vous paraissent pas faites pour vous. Peut-être que vous vous trompez. La méditation, c'est pas encore un truc que je vais faire, mais en tout cas, demain, c'est une approche que j'ai hâte de découvrir.
Mm-hmm. Voilà. Trop bien.
En fait, j'ai surtout hâte de m'allonger, qu'on me parle, qu'on me fasse de la musique. Je sais pas si je vais méditer, mais en tout cas, je vais kiffer.
En fait, c'est pas. Enfin, méditer, c'est pas. Tiens, je décide de. Enfin, bon, on a déjà parlé, non?
52 fois. Ouais.
Non mais méditer c'est pas tiens je vais me mettre à méditer, c'est juste déjà tu respires et tu te concentres sur ta respiration, c'est une forme de méditation. Ou je sais pas, tu regardes les feuilles dans un arbre qui sont en train de bouger et tu kiffes là, tu fais ok c'est cool, je suis bien. Ou tu regardes, t'es face à la mer et tu fais ça aussi c'est une forme de méditation, tu vois.
Et c'est quand tu grailles un bon truc qui te fait plaisir, c'est pas de la méditation.
Si t'es focus,
ça dépend si tu te jettes dessus ou si tu profites.
Voilà, si t'es focus dessus et que tu kiffes le moment et que tu fais putain, en fait, je suis trop bien et en fait, je me dis c'est quoi les sensations que ça me fait dans ma bouche, dans mon corps, machin, de manger ce morceau de bidule. Et ben bah, ça c'est une forme de méditation.
D'accord.
Aussi.
D'accord. Bah, alors il semblerait que je médite de temps en temps. Alors ouais,
je pense qu'on médite tous beaucoup de temps en temps sans vraiment le savoir. Et c'est un peu ça le piège du truc, c'est que je pense qu'il y a une idée très très convenue de ce qu'est la méditation et de il faut que tu médites ou il faut pas que tu médites. En fait, on s'en fout, c'est pas
juste
ça.
Prends le temps.
C'est ça qui est trop bien justement dans la méditation, c'est que tu peux. Ok. C'est toi qui décides.
Ok.
Voilà.
Merci beaucoup Marie.
Oui, voilà, j'ai trois
Pour le très intense yoga.
Très intense yoga.
Yes. Voilà. Tihi. D'ailleurs, by the way, elle a une ligne de fringue parce que
elle
développe aussi plein de choses.
Elle est stylée. Hein.
Ça reste un business. franchement, elle fait des fringues trop belles qui sont brandées ici. Je vais tout acheter. Voilà. Les petits massages m'ont vraiment eu jusqu'au bout. Voilà.
Merci,
à toi,
Marie.
Doro. Quel est ton gros kiff?
Mon gros kiff. Oh là là.
On enchaîne bien là.
Oh oui, ah, quelle énergie de début, incroyable. Alors, dans ma vie, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à me réveiller le matin. C'est un problème quotidien, du coup, c'est un peu long, à 26 ans, de toujours avoir du mal à se réveiller le matin. en parlant une énième fois avec mes amis, là, j'en ai un qui m'a dit, vas-y, essaye cette appli, ça s'appelle Sleep Cycle, et ça t'écoute respirer, et ça te dit quand te réveiller.
Et je suis là, oh là là.
Ton téléphone t'es...
Et donc... Le point,
t'es pas ready.
Nous y voilà. Le point, mon téléphone m'écoute. Je me suis vue être à un stade de JPP, hein, clairement, là-dessus, où je me suis dit, je vais volontairement dire, bah oui, téléphone, active le micro, écoute-moi pendant l'intégralité de ma nuit.
C'est normal.
On va faire ça. Apparemment, c'est pour mon bien. Et vraiment, tu vois, de genre de battage de couilles total. Alors, il m'envoie des petits mails. L'application m'envoie des petits mails pour me dire « Nous respectons votre vie privée. Vos données ne sont qu'à vous. » Et tout ça.
Non, mais en même temps, t'es en train de dormir. Qu'est-ce que t'en as à foutre?
Peut-être que tu peux dire mais
alors,
dors,
peut-être qu'il m'est déjà arrivé une ou deux fois de l'activer et en fait, de pas dormir tout de suite et de... être avec un mec dans mon lit.
D'accord.
Et de pas trop avoir tilté. Peut-être ça m'est arrivé une ou deux
peut-être
fois.
Peut-être pas dormir.
Aussi
des recommandations de films.
Il sait, quoi je m'endors aussi maintenant, tu vois. Vraiment, clairement, s'il a envie d'analyser, il sait exactement ce qui se passe dans ma vie de façon assez, tu vois. Moi, ces temps-ci, tous les soirs, je m'endors avec le podcast de. Comment il s'appelle maintenant?
Maintenant?
Merde, je l'ai oublié.
Il a changé de nom.
Le podcast s'appelle A Conversation With. Et c'est un mec youtubeur américain dont j'ai oublié le prénom, Philippe DeFranco. Voilà, ça y est.
Ah oui,
qui interview des gens très connus d'internet, de YouTube.
Souvent des youtubeurs.
Et ces temps-ci, je suis sur son interview de Sean Evans, le mec qui fait Hot Ones, le truc, les interviews avec
les poulets.
Le poulet épicé, là. Ouais. De plus en plus épicé. Et donc son interview, je l'écoute jamais jusqu'à la fin parce que je m'endors au milieu parce que j'ai besoin de bruit pour dormir. Donc ça, mon téléphone, il le sait. Maintenant vous aussi, c'est cadeau. Allez, pas besoin d'être dans mon téléphone. Et donc ce truc, cette appli, je l'ai installée en me disant, qu'est-ce que ça va changer vraiment. Ouais. Parce que je suis à un stade où je n'ai plus d'autre astuce à part installer un truc qui vibre sous mon lit, vraiment. J'ai, pour vous détailler le matin, j'ai donc d'abord deux réveils sur le réveil normal de mon téléphone. Ensuite, j'ai deux réveils qui déclenchent des playlists Spotify. Ensuite, j'ai un radio-réveil qui fait bip-bip très fort. Ensuite, j'ai une lampe qui fait de la lumière que je me suis achetée à Noël, qui me pulvérise de la lumière à la gueule deux fois, sur deux trucs différents avec deux musiques différentes. Et ensuite, j'ai un réveil sur mon Mac qui fait qui fait des bruits de vache. Très fort, qui m'agresse un peu, qui s'incruste un peu dans mes rêves à un moment. C'était marrant, je me réveillais avec des vaches. C'était plutôt sympa. Et tout ça me faisait quand même arriver en retard au moins une fois par semaine.
Attends, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu les entends pas ou est-ce que tu les entends, tu snoozes? Et du coup, c'est vraiment...
C'est un mélange entre les deux. Des fois, je les entends vraiment pas et je me réveille, genre, une fois qu'ils ont tous sonné. Tu vois, une fois qu'ils ont tous fait leur pause en disant, on va bientôt revenir, promis, dans 5-10 minutes. Et
je te dis, ah, j'ai entendu un truc, peut-être.
Et ouais,
non,
c'est
mais
ça.
Là,
et je me dis,
j'imagine,
je suis la pire coloc.
Est-ce que...
Oh, j'avoue.
Non, mais t'imagines, le matin, dans la chambre de Doro, tu te demandes s'il n'y a pas un cambriolage, quoi.
Mais il y a une ferme dans ma chambre. C'est
des vaches, des Spotify, des machins
de ouf.
Est-ce que tu dors la fenêtre ouverte? Enfin, le volet ouvert.
Dans le noir ou dans...
Ça dépend. Ça dépend. Des fois, je me mets dans l'obscurité totale. Des fois, je laisse un peu la lumière. Des fois, je fais un peu.
Mais si tu laisses complètement ouvert, tu crois pas que. Et notamment là, on parlait
si,
tout à l'heure.
Je le fais aussi, oui, bien sûr.
Et ça te réveille. La lumière du jour te t'aide pas à te réveiller?
Non.
Mais c'est parce que t'es fatigué, du coup?
Mais papa, en fait.
Moi, je veux une explication.
Je sais pas. Je pense que je suis juste.
Je veux comprendre.
Je pense que de base, je suis juste nulle en matin. Je pense que je suis faite pour me réveiller à midi et travailler toute la nuit. Mais bon, ça, c'est.
Ah, d'accord. Voilà.
Mais du coup, Sleep Cycle, là,
du coup, Sleep Cycle.
La meuf qui
travaille. Je l'ai installée et je me suis dit, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je demande à mon téléphone de m'écouter ronfler, vraiment, parce qu'en plus, ronfle pas mal. Et je me suis dit, mais quel enfer, qu'est-ce que je fais? Les premiers jours, ça n'a rien changé du tout. Et là, ça fait 10 jours.
Oh.
Et je dors pas plus, pas moins que d'habitude.
Okay.
Mais je me réveille à l'heure. Et du coup, maintenant, j'ai trouvé le système, tu vois. Je mets Sleep Cycle en premier et je le fais me réveiller. Donc, il te demande un créneau sur lequel il faut que tu te lèves. Mm-hmm. Et du coup, c'est un créneau de genre... Enfin, tu décides, mais bon, moi, je lui laisse 20 minutes. Et après ça, je lance l'armée de réveil. Et du coup, il me pré-réveille un peu. Et là, je suis réceptive.
Mais du coup, il fait quoi? J'ai pas compris.
En fait, il calcule... Je pense que l'appli calcule tes cycles de sommeil.
Voilà.
Et après, il fait des bips.
Parce que tu sais, en gros...
Après, il me lance un réveil, de base...
Ta nuit, elle est découpée en cycles d'une heure et demie.
D'accord.
Tu savais ou pas?
Non.
En gros,
j'ai pas du tout précisé ça. Oh, j'ai très mal fait mon taf.
Mais non, mais c'est pas grave. Mais en gros, ta nuit, elle est découpée en cycle d'une heure et demie dans lequel tu passes par différentes phases qui sont le phase de sommeil léger, phase de sommeil entre les deux, là où tu es en train de rêver, tu vois, le phase de sommeil profond qui est hardcore.
Il peut se passer n'importe quoi.
Tu peux être mort. Enfin, en général, c'est le moment où ton corps bouge pas et justement, il dit OK, en fait, t'es en train de pas bouger. Et en fait, tu reviens jusqu'à te réveiller. Alors, tu t'en rends parfois compte, parfois, tu t'en rends pas compte, mais juste, tu bouges et hop, t'es reparti pour une heure et demie.
Ah,
et donc,
bien.
En gros, t'es plutôt plus apte à te réveiller à la fin de ton moment où, et si effectivement, Doro cherche à se réveiller au moment où elle est dans un cycle de sommeil lourd, c'est rien à faire.
Visiblement, physiquement impossible.
D'accord.
Mais je pense pour plein de gens. Et c'est notamment les moments où tu as le réveil hardcore qui sonne et tu te réveilles et tu es là, j'ai envie de mourir. Ouais. Juste, tu es en train de faire ça, quoi, tu vois.
Trop bien.
Voilà, donc ça me donne encore plus envie de choper un. Non, ça c'est la version. Je suis sur la version gratuite. Il y a une version. Enfin, il y a des trucs que tu peux débloquer en payant, mais je pense pas en avoir besoin, quoi, finalement.
Ok.
Mais je me rappelle qu'à l'époque où la passion Fitbit se propageait dans la rédac,
Fitbit fait ça.
J'avais très envie de m'acheter un Fitbit pour qu'il me réveille au bon moment, en vibrant sur mon poignet, en me disant ah ouais, peut-être que les phases de sommeil ça peut m'aider, machin.
Fitbit
et j'en ai jamais acheté, mais.
Fitbit calcule tes phases de sommeil et te réveille en fait, tu lui donnes un créneau et il te réveille à peu près au moment où t'es en train d'en sortir, quoi.
Ah, c'est marrant.
Donc c'est plutôt très cool.
Ouais. Mais j'avais un peu oublié que j'étais un enfer et après j'ai dormi avec un gars et il m'a fait. T'es sérieuse vraiment, j'avais, tu sais, moi j'accumule juste des trucs et vraiment tous les deux mois il y a un nouveau réveil qui se met en place dans ma chambre et je me rends plus compte, tu vois, juste j'ajoute des couches et des couches et vraiment pour quelqu'un qui se réveille facilement, ma chambre est une chambre de torture.
C'est horrible,
le matin. C'est n'importe quoi et je suis passée par la radio sur une station que je détestais, que je mettais à fond. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. À un moment, j'avais une alarme. On aurait dit que c'était la guerre nucléaire. Enfin,
j'ai tellement vu ta chambre réveillée.
Et là, soudainement,
trop drôle.
Ça marche mieux, beaucoup mieux.
Trop cool.
Ouais, c'est bon, bien. Bah, let's hope for the suite. Hein.
Ah bah oui.
D'ouf.
Let's hope for the suite.
Merci beaucoup, Doro.
Trop cool. Avec plaisir.
Dormez bien.
C'est important, le sommeil.
C'est important.
C'est bien, le sommeil.
Fab.
C'est à moi ?
It's your turn.
Je suis trop content parce que ça fait tellement longtemps que je veux vous parler de cette série qui revient pour la saison 5, qui s'appelle... Tu le sais ?
Non.
Better Call Saul.
Ah oui, c'est vrai.
Tu l'as ou pas ?
Oui.
Donc, Better Call Saul. Bah oui, bien sûr. Non, mais Better Call Saul, qui est vraiment... donc, à la base, Marie, tu as vu Breaking Bad ?
J'ai vu Breaking Bad.
Voilà.
J'ai vu Breaking Bad.
T'as kiffé Breaking Bad ?
J'ai kiffé Breaking Bad.
Voilà, Breaking Bad qui est... Mais Doro,
mais
il
tu
faut
peux le faire, tu... regarde, j'ai rattrapé en 6 mois.
Mais je t'ai écouté parler de Breaking Bad et j'étais là, elle a raison. Je l'ai quand même pas regardé.
Ok. donc je tiens juste à vous dire que Breaking Bad est sans doute l'une des meilleures séries que j'ai jamais pu regarder. C'est vraiment... voilà. C'est encore mieux la deuxième fois parce que j'ai fait un rewatch avec ma meuf et c'était tellement bien de voir à quel point ils foutent des toutes petites graines, des petits indices de ce qui va se passer de façon beaucoup plus vénère dans la saison 4 chez les personnages, où là, tu le vois pas sur la première fois, t'es là juste, ok, bon, c'est un détail. Et la deuxième, au rewatch, tu fais, oh, il est déjà comme ça, ouais, il est déjà comme ça, c'est trop fort. Et donc, ils ont les créateurs, juste après la fin de Breaking Bad, qui était un peu un crève-corps pour tous les fans de Breaking Bad, ont décidé de lancer un spin-off. Donc, un spin-off, c'est une série dérivée de l'univers de Breaking Bad, qui s'arrête en particulier sur l'avocat un poil véreux d'Eisenberg, donc de Walter White, qui s'appelle Saul Goodman dans la série Breaking Bad. Et en gros, c'est une sorte d'origin story de ce gars-là, de comment il finit par devenir cet avocat-là. Et aussi, t'as un côté, ça se passe après... Il y a des séquences en noir et blanc où tu te dis, ok, donc c'est vraiment post-Breaking Bad, et tu le comprends parce qu'en fait, il fait tout pour se planquer et tout. Tu te dis, ok, le mec est en cavale. Mais avant tout, la série s'arrête sur comment ce gars, qui est à la base un petit mec fort sympa, qui est, comment on appelle ça, coursier dans. Non, c'est.
Courtier
Non, non, pas. Non, mais qui est au service de. Au service du courrier, pardon. Non, mais qui est au service du courrier dans une.
Il est postier.
Non, mais c'est pas postier, c'est dans une boîte, tu vois.
Oui, il est où, coursier.
C'est les mecs qui s'occupent de trier les.
Ah, oui,
en interne, tu vois, dans les boîtes.
Ah, oui, okay.
Et il travaille pour le cabinet d'avocat de son frère, qui est un avocat de son grand frère, de son plus vieux frère, qui est un avocat hyper réputé, hyper connu, etc. Et lui, c'est un peu donc son vrai nom c'est Jimmy McGill. Son frangin s'appelle Charles McGill. Et c'est un peu Jimmy la démerde quoi, Jimmy la débrouille. Le mec, il est toujours dans des plans plus ou moins, mais en attendant toujours plutôt du côté de la loi quoi, tu vois.
Juste à la limite, mais...
tu sens qu'il est un peu voilà, il a déjà des petits côtés comme ça. Et en fait pendant donc ces 5 saisons, la série raconte comment le mec finit par évoluer pour devenir l'avocat sans foi ni loi et qui s'en bat les couilles. Si vous avez regardé Breaking Bad, vraiment c'est un personnage hyper central de la série et qui est hyper charismatique.
C'est un des meilleurs.
Ouais, c'est le personnage est génial et voilà. Et surtout, en fait, je pense que la série a un peu souffert du fait d'être venue après Breaking Bad, parce que si on regarde bien, Breaking Bad, en fait, démarre plutôt doucement et finit par monter en puissance de façon complètement apocalyptique à la fin, que c'est complètement dingue. Et c'est vrai que les gens qui ont eu tendance à adorer Breaking Bad, surtout sur la fin, se sont dit, ok, on voudrait avoir exactement la même intensité d'entrée. Et en fait, ils font exactement comme... Donc, c'est les mêmes créateurs de la série... Comme avec Walter White, c'est que ça démarre tout doucement. Ils prennent vraiment le temps de poser les personnages, de poser les caractères des persos, etc. Et t'as cette relation entre les deux frangins qui est creusée saison après saison, vraiment, où ils prennent le temps de rentrer dans l'âme de chacun d'entre eux et de te montrer un petit peu les différentes... l'amour et la haine qu'il y a entre ces deux frangins. Où effectivement t'as Jimmy donc le futur Saul Goodman qui est hyper jaloux de son frère et qui en même temps l'adore et peut pas s'empêcher de l'adorer et l'autre qui est érudit et qui considère que son petit frère est toujours son petit frère et qui le traite un peu moins que rien et ils se font des coups. Oh là là, mon Dieu. Et au milieu de tout ça, t'as cette meuf qui s'appelle Kim, qui est l'amoureuse de Jimmy, de Saul, qui est elle aussi avocate et qui veut tout faire pour faire en sorte de rester dans le droit chemin. Et qui passe son temps à se faire embarquer dans ses plans à la con par Jimmy. Et surtout, si vous kiffez Breaking Bad, c'est que il y a très très vite des caméos des personnages hyper emblématiques de Breaking Bad. Il y a notamment, on suit aussi l'origin story par la même occasion de Michael, donc de Mike, qui est l'homme de main, qui est l'homme de main de Fring, donc le mec des poulets.
Le grand baou là,
Los Pollos Hermanos.
Non.
Ouais. C'est Gustavo Fring,
ah, oui.
D'accord, qui est le méchant et que tu vois un peu plus tard dans Better Call Saul. De ouf, vraiment, tu les vois arriver. Surtout, ça suit Mike. Donc le vieux gars,
le gangster mais gentil, tu vois.
L'homme de main, c'est son homme de main. Non, ça te parle pas.
Ouais, qui est un vieux monsieur. 10 ans que j'ai vu.
Ah ouais. Qui est un vieux monsieur et mais qui en même temps est une sorte de gros roublard à qui il faut pas lui faire quoi, tu vois, qui est un ancien flic si je me trompe pas. Et tu suis un petit peu aussi l'évolution de ce mec là à travers sa rencontre justement avec Gustavo Fring. Et lui c'est pareil, Mike c'est un peu un personnage hyper emblématique de Breaking Bad. Et c'est du bonheur. Vraiment. Et la saison 5 redémarre. Je ne sais pas si c'est la dernière. Possiblement, c'est la dernière. Je n'ai pas suivi vraiment. J'ai que la moitié des infos. Mais c'est super. Vraiment, je vous invite à regarder. C'est réalisé.
Aux petits
oignons. Les mecs, ils sont bons, ils sont forts. C'est beau comme tout. Et surtout, vraiment, si vous aimez bien les séries où ça prend le temps de s'arrêter sur les personnages et de creuser un peu leur psyché.
Ouais, surtout les relations entre... tu vois, genre, c'est...
La relation entre les deux frangins, c'est tellement dur et joli à la fois. Et waouh, c'est très très chouette. Voilà.
Trop bien, merci.
Better Call Saul, c'est sur Netflix.
Oui.
Et comme donc vous avez les 4 saisons à rattraper, et comme c'est une série qui est diffusée en même temps aux US sur AMC, qui est la chaîne historique où il y a Breaking Bad et tout, en fait vous avez un épisode toutes les semaines.
Ah oui.
Donc là il y a 10 épisodes cette saison. Voilà.
Waouh.
Moi je vais attendre, je pense, 6 ans. Et comme ça je regarderai tout d'un coup. Je préfère, c'est mon mode de fonctionnement. Mais merci.
J'ai trop envie de me faire un rewatch en plus, parce que vraiment, je pense que j'ai oublié plein de détails du début, quoi, parce que j'ai vraiment regardé au fur et à mesure. Donc voilà.
Merci beaucoup. C'est stylé. Merci, c'est trop cool.
Eh bien, écoutez, je vais vous parler de mon gros kiff maintenant.
Gros kiff. Ah, X.
Oh, bah, c'est à ce point-là.
Moi, je suis tellement contente de parler de ce gros kiff. Parce que, en fait, ça m'émeut pas du tout. Hein,
c'est... Ah oui.
Okay.
Très légitime.
Je vais vous parler de Maeva. Vous savez qui c'est Maeva?
Non.
Maeva, ça s'appelle Maeva Ghennam.
Oh putain, c'est meuf des ch'tis.
C'est une meuf des Marseillais.
Elle est Marseillais.
C'est une meuf qui
est-elle?
Ultra drôle. Alors, elle fait partie des Marseillais. Donc, elle a intégré, je crois, il y a 2-3 ans, 2-3 émissions. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Marseillais font une émission par an qui s'appelle Les Marseillais. Et ils vont dans une destination paradisiaque. Mmh. Ensuite, il y a une deuxième émission par an où ils sont contre le reste du monde. Qui est le reste de la télé-réalité. Voilà.
J'adorerais avoir les Marseillais contre Koh-Lanta.
Mais ça va arriver un jour, c'est sûr.
Mais il y a aussi Moundir. Moundir et les apprentis aventuriers. Il y a beaucoup de Marseillais qui participent à l'émission. Parce que donc, c'est Moundir, un ancien participant de Koh-Lanta, qui maintenant fait souffrir toutes les bimbos de la télé-réalité. Voilà.
T'as entendu Denis Brognard parler de Moundir, justement?
Eh ben non,
j'ai pas encore adoré,
fini. Il me reste 15 minutes, je crois.
Je me suis un peu moqué de Moundir à un moment donné. Il est monté direct au créneau en disant...
Il a protégé Moundir.
Parle bien, parce qu'en fait Moundir, son objectif c'était d'être présentateur, tu vois, il a taffé pour. Je suis là, ok, très bien, je back off sur Moundir de ouf.
Je t'ai fait calmer direct.
Tellement, pardon.
Mais voilà, et donc Maeva, on l'a découverte il y a maintenant 2-3 ans, il me semble, et c'est vraiment une femme très bimbo, dans le sens, voilà, elle a du plastique partout, mais en fait elle le revendique et elle n'a aucun filtre, et c'est vraiment une meuf ultra drôle. Et l'autre jour, donc c'était la Saint-Valentin, il me semble, elle a reçu un sac et elle a dit, mais vous savez, moi, mon futur mari, ce sera mon sac à main. moi, les hommes, c'est ça, c'est mes sacs à main, tu vois, c'est un petit plus pour faire des câlins. Mais en vrai, moi, je suis une femme indépendante, j'ai 22 ans, j'achète ma propre maison,
22 ans.
Je fais ce que je veux, tu vois, et genre, mon mari, elle me dit ça, mon mari, plus tard, ce sera mon sac à main, c'est un petit plus pour les câlins. Et en fait, bon, elle exagère, parce qu'elle trouve toujours des manières de formuler les trucs qui sont incroyables, enfin, elle a toujours des sorties exubérantes et complètement zinzin, tu vois, et ce qui fait qu'elle est ultra marrante dans le programme.
Et en fait, ce que je trouvais qui était ultra fort dans là-dedans, c'est que oui, aujourd'hui, en fait, il y a des femmes à travers la télé-réalité qui se font un bif de malade et qui, en fait, n'ont pas besoin de mecs. Mmh. Et je trouvais ça ultra fort parce que dans la télé-réalité aujourd'hui, la première chose que font les candidats en arrivant dans une nouvelle aventure, là, par exemple, c'est le début des Marseillais, c'est se mettre en couple. Donc voilà, il faut trouver...
Pré-couple, non, c'est pas ça.
En pré-couple, voilà. C'est,
ah oui, le pré-couple, j'avais oublié.
Le pré-couple.
Le pré-couple, donc c'est tu t'intéresses à une personne, la personne s'intéresse à toi aussi. Vous avez décidé d'être exclusif dans l'intérêt de vos personnes respectives. et vous êtes en pré-couple.
C'est très... Voilà.
Au secours.
Donc c'est en fait l'objectif premier quand t'arrives dans une nouvelle aventure comme ça, c'est savoir qui va se mettre avec qui, parce qu'en fait c'est ultra important pour les téléspectateurs de suivre une femme qui est déjà en couple. En fait, c'est une femme qui n'est pas en couple en télé-réalité, elle sert à rien, entre guillemets. En fait, on appelle ça des plantes vertes, tu vois. Enfin, c'est horrible, hein. Mais c'est atroce, tu vois. Et,
Mais c'est pareil pour les hommes ou pas du tout?
Non, pour les hommes, beaucoup moins. Okay. Parce qu'en fait, les hommes, ils peuvent se tenir sur leur seule force d'être soit drôle, soit... Enfin, c'est souvent, ils sont drôles, tu vois. Mais en fait, les femmes, c'est souvent, il faut qu'elles se mettent avec des mecs pour exister et tout. Et Maëva, bon, elle l'a fait au début. Mais en fait, aujourd'hui, elle a besoin de personnes pour exister, en fait, dans la télé-réalité des Marseillais. Et comme avant elle, Jessica, qui maintenant est maman, enfin, fait autre chose, tu vois, même si elle continue un petit peu la télé-réalité. Mais c'est des meufs qui reposent entièrement sur leur personnalité et leur... Vraiment, elle est tellement marrante. Tu vois, et c'est rare, en fait, qu'on... dans la télé-réalité et même dans la vie, que les femmes drôles soient mises en valeur, tu vois. C'est pas forcément une qualité que les gens recherchent chez une femme, tu vois. Et en fait, Maëva, donc, elle est complètement nature, elle est complètement barjo, tu vois, quand elle est dans l'eau, elle est « Ah bah, je flotte avec avec mon plastique partout et tout, machin », enfin, tu vois.
Elle dit vraiment « mon plastique partout ».
Ah ouais, non, mais si tu veux, elle est super open sur le fait qu'elle fait énormément de chirurgie esthétique, que voilà, ça lui plaît. Et puis, je sais pas, elle est super, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à la regarder et je pense qu'elle est... mine de rien, assez maline. Et surtout, bah, ce côté très indépendante, tu vois, où elle exagère en disant que les hommes sont des sacs à main. Mais en fait, elle a raison dans un sens où c'est accessoire d'avoir une personne à tes côtés et que tu peux être ta propre personne, tu vois. Et donc,
c'est
elle...
beau ce que tu dis.
Bah ouais, ça. Ouais. Mais en fait, je la trouve inspirante, plus inspirante pour des jeunes femmes, tu vois, que n'importe quelle autre femme qui, en fait, ne vivrait qu'à travers le regard des hommes. Bon, après, elle est très regardée par le male gaze, tu vois, forcément, puisqu'elle fait de la télé-réalité et qu'elle est très refaite, donc elle a beaucoup de forme, etc. Mais en fait, elle le sait et elle s'en sert.
Ouais.
Et tu vois, c'est une forme de puissance. Et je trouve que, du coup, elle est incroyable.
Et tu crois pas que c'est un peu un signe des temps que notamment les directeurs, les directrices de casting de télé-réalité décident de mettre des meufs comme ça dans les émissions, parce que en vrai, avant, c'était un peu relou, en fait, ça allait un peu à contre-courant, et on préférait plutôt trouver des meufs qui rentraient bien dans le rang, éventuellement aller chercher des mecs qui étaient un peu plus forts en personnalité, quoi.
C'est ça. Et après, il y a eu beaucoup de crieuses dans la télé-réalité, donc plus tu criais, plus tu faisais de problèmes, plus t'étais visible.
Les problèmes.
Mais donc Maëva, elle fait un peu ça, parce que voilà, elle hurle toute la journée. Mais elle a un côté aussi ultra sympa et je trouve notamment avec les autres femmes, je voulais dire meufs et femmes en même temps, donc ça
les femmes,
les autres meufs, je la trouve assez bienveillante, tu vois, ce qui est assez rare en général, les nouvelles de télé-réalité face aux anciennes, c'est un peu la concurrence. Bah ouais, mais toujours le syndrome un peu de la schtroumpfette où genre il peut y en avoir que quelques-unes qui arrivent au top, tu vois, qui sera la prochaine Kim K. Enfin, en vrai, il y en a qu'une de Kim K, tu vois, donc et donc elle, je la trouve assez bienveillante. Elle a toujours plein de copines, les copines. Moi, c'est ma copine, tu vois. Puis je sais pas, elle est super nature, ça fait plaisir, c'est hyper rafraîchissant de la voir, même si elle est complètement folle. Et je vous invite à vous abonner à son compte Instagram, qui est chaque jour un peu plus génial. Et elle parle de trucs.
Tu mettras dans les notes.
Ouais, bien sûr. Et elle parle de trucs ultra. Genre, c'était pendant une interview, je me souviens. Elle disait que, en fait, quand elle était dans l'eau, dans la mer, elle pouvait pas s'empêcher de faire pipi. Et que du coup, elle était avec son nouveau gars, tu vois, dans une des émissions. Et elle lui a dit oh, je suis désolée, je t'ai fait un peu pipi dessus vu qu'on était dans la mer et tout. Il fait ah, mais moi aussi je le fais. Enfin, tu vois, et genre, il parle de sujets ultra naturels. Enfin, tu vois, elle est ultra naturelle et ça fait trop plaisir.
Mais alors, attends, est-ce qu'elle fait de la promotion pour les blanchiments dentaires sur Instagram?
Je n'ai pas trop vu. Elle fait plutôt les cheveux. Mais,
ah, d'accord, okay, d'accord.
Mais oui, bien sûr, c'est une influenceuse. Ouais. Elle a 1 million de followers. Ah, c'est. Putain, c'est... Enfin, elle fait son bise sur les marques et c'est comme ça qu'elle achète sa maison à 22 ans, tu vois. Oui, mais voilà, c'est oui, ça reste une influenceuse en dehors de la télé-réalité,
okay.
comme beaucoup de candidates.
Voilà. Bon, merci Alix.
Trop cool, trop bien.
Voilà, je vous encourage à aller voir Maëva, c'est la meuf la plus drôle de la télé en ce moment.
Ok.
Eh ben écoutez, c'est la fin de cette émission.
Oh là là. Wow.
Cette 81e émission, je crois que je ne l'ai pas dit au début.
Non, bah non. Vas-y, je crois,
j'ai oublié plein de choses aujourd'hui.
C'est pas vrai.
J'avais la tête ailleurs, j'ai fait des cauchemars.
Fais des cauchemars, bah les oui. Il fallait que tu travailles très vite là. C'est la pression. Me fait péter un plomb.
Donc voilà, je vous encourage à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.
Oui, faites ça.
Toujours. Nous mettre des petits commentaires, m'envoyer vos dédicaces, vos petits jingles, tout ça.
Vite bolos.
Ça fait plaisir, petite vite bolos. Voilà, vous avez plein de devoirs. Et puis, en attendant la semaine prochaine.
Comment ça se passe?
Touchez-vous bien, Kiki!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.